18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Deux heures d'information, d'analyse, de débat à 18h20. Prenez note, je recevrai ce soir Jean-Charles Brizard, c'est le président du Centre d'analyse du terrorisme. J'ai plusieurs questions à lui poser sur les conséquences de l'offensive turque en Syrie, sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. Pourquoi cet acte n'a pas été revendiqué par Daesh? Ce sera dans 20 minutes précisément, 19h30. Notre débat du soir, Joker, c'est un film. Il est sorti mercredi, il y a deux jours de cela, on en a parlé avec Mathieu Charrier. Ce sera le film que vos ados iront voir ce week-end forcément. Film qui fait l'apologie de la violence. Est-ce que c'est sain, ce genre de film? Vous êtes parents, qu'en pensez-vous? Je vous attends bien sûr au 39-21. Deux psychologues en parleront avec nous d'ailleurs longuement hein, ce sujet, parce que évidemment il y a forcément des conséquences. L'actualité donc pendant ces deux heures en direct avec nos invités, des journaux complets, celui notamment de Sébastien Krebs qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'info qu'il vous faut, donc c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est jusqu'à 20h. Bienvenue à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu le feu vert. Ça va peut-être venir ce soir, mais pour l'instant, le préfet, il n'a pas encore dit.
Les producteurs laitiers normands n'y comprennent plus grand-chose. Le ministre de l'Agriculture leur promet aujourd'hui qu'ils pourront à nouveau vendre leur lait. Mais les restrictions ne sont toujours pas levées ce soir.
On ira sur place pour tenter de démêler tout ça, parce qu'il y avait quand même trois ministres sur zone aujourd'hui.
Vigilance et signalement immédiat, premiers effets des nouvelles consignes. Après l'attentat de la préfecture de police de Paris, deux policiers montrant des signes de radicalisation se sont vus retirer leurs armes.
Et justement, une attaque au couteau aujourd'hui dans un centre commercial, cette fois de Manchester. L'assaillant a été arrêté. On ne connaît pas pour l'instant ses motivations.
Et puis un témoignage ce soir, le Kurdistan syrien sous les bombes turques et la population qui fuit ou se terre chez elle. Nous attendons la mort, ils bombardent partout, dit cette femme. La France évoque de potentielles sanctions contre la Turquie.
Dans l'actualité ce soir, le Nobel de la paix attribué à qui? Eh bien au Premier ministre éthiopien.
Et puis les Bleus dans le Grand Nord ce soir, Islande-France sur un terrain difficile.
C'est un contexte peut-être inhabituel pour la plupart des joueurs, mais bon, ça reste un terrain de foot.
Match à suivre en direct sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h. La Bourse de Paris finit en nette hausse, plus 1,73% à 5665 points.
Anissa, dites-nous tout pour le temps de ce week-end.
Alors, gris, voilé, nuageux, venteux, pluvieux. Je m'arrête
c'est
là.
C'est tout? Non mais attendez, c'était pas du tout ça qui était prévu.
Eh bien, ça sera ça ce week-end et je vous détaille tout dans un instant.
Europe 1.
Mais on voulait d'abord, avant de développer cette actualité, vous faire entendre ça. Tendez bien l'oreille, c'est un voyage dans le temps. Ce son, c'est le bruit terrifiant de la guerre et cette voix, c'est celle d'un reporter. Un reporter, le 6 juin 1944, au cœur du débarquement, on découvre aujourd'hui ce document extraordinaire, un document de radio qui dormait au fond d'une cave depuis des décennies.
Bonsoir d'Autriche.
Bonsoir.
Ce document sonore qui dure plusieurs minutes raconte vraiment le D-Day de l'intérieur.
Oui, c'est un document de 13 minutes qui donne des frissons. On y entend les sirènes des avions, les cris des soldats américains à bord de leurs bateaux, les détonations qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Ce reportage a été retrouvé dans une cave, en effet. La cave de Bruce Campbell, un Américain qui a acheté une maison aux États-Unis il y a 25 ans. Il découvre alors des caisses remplies de bandes magnétiques, mais ce n'est qu'il y a quelques années qu'il s'est occupé de ces bandes et on découvre aujourd'hui au milieu des documents audio ce trésor, cet enregistrement qui date du 6 juin 1944. En fait, l'ancien propriétaire de la maison était un journaliste radio. Il s'appelait George X et le jour du débarquement, il était à bord de ce navire américain au large des côtes normandes sous le feu de l'armée allemande. Sa voix est parfois couverte par le bourdonnement des avions, par le fracas des canons, les cris des hommes autour, mais à plusieurs reprises, il décrit ce qui l'entoure. Un avion arrive, juste au-dessus, à bâbord, dit-il. Les balles traçantes font comme un arc au-dessus du bateau. Un moment, on entend aussi les hommes à bord se réjouir d'avoir réussi à toucher un avion allemand. Et à la fin du reportage, la voix du journaliste s'assombrit. Autour de nous, il fait nuit, il n'y a aucune lumière, aucun tir, dit-il. Il est minuit 10, aux premières heures du 7 juin 1944. Alors le journaliste que l'on entend, George X, a ensuite continué à couvrir la guerre en Europe après le débarquement. Il a légèrement été blessé fin 44, mais à son retour aux États-Unis, cet enregistrement a fait sensation.
Et ce document extraordinaire, Bruce Campbell l'a légué au Mémorial National du D-Day de Bedford en Virginie. Merci, Laure d'Autriche, pour ce récit.
Et cette pépite, merci à vous, Laure. On en vient au grand titre de ce vendredi soir, à Rouen, deux semaines après l'incendie. Lubrizol s'engage, Sébastien, à indemniser les agriculteurs touchés par les restrictions.
Et l'entreprise s'engage à créer un fonds de solidarité, 50 millions d'euros. Ils seront versés pour couvrir les pertes subies par plus de 400 éleveurs de 6 départements. Aujourd'hui, 3 ministres ont fait le déplacement pour installer un comité de suivi. Le ministre de l'Agriculture, notamment Didier Guillaume. Hélène Terzian, vous l'avez suivi. Et il a fait donc une annonce. Les producteurs de lait vont pouvoir à nouveau vendre leur lait.
Eh bien, pas encore, parce que figurez-vous que c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce qu'a en fait annoncé le ministre de l'Agriculture à l'issue du comité de transparence, c'est que tous les éléments sont réunis pour que la consignation du lait soit levée. Didier Guillaume s'appuie pour cela sur des analyses rassurantes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation.
Ce matin, le directeur général de l'ANSES a annoncé que, à ce stade, au vu de tous les prélèvements qui ont été faits, de toutes les analyses qui ont été faites, rien n'était anormal. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, le préfet, en relation avec la Direction générale de l'alimentation, va prendre les décisions de lever de séquestres et notamment, vraisemblablement, de remettre le lait en commercialisation puisque les analyses sont les meilleures.
Vous l'avez entendu, pour que les producteurs puissent effectivement vendre à nouveau leur lait, il faut que le préfet lève son arrêté de restriction. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas le cas. Je viens d'ailleurs d'avoir la préfecture en ligne. Cela n'interviendra visiblement pas avant plusieurs heures. Une situation déconcertante pour les éleveurs laitiers qui doivent donc continuer de jeter leur stock. Rappelons que depuis la restriction, 700 000 litres de lait ont dû être jetés par les agriculteurs.
Hélène Terzian à Rouen pour Europe 1. Donc voilà, des restrictions qui ne sont pas encore levées, alors même que le ministre tout à l'heure disait qu'elles allaient être levées cet après-midi. En tout cas, les producteurs se retrouvent un peu perdus et lassés. Écoutez, Jean-Hugues Fleutry, qui est producteur laitier.
C'est complètement flou là pour l'instant. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Le ministre de l'Agriculture ce matin, clairement, a dit, moi, je pense que pour la collecte de lait, ça va être reparti. Le préfet devait nous contacter, on n'a rien. Là, je viens d'avoir un mail, il y a 10 minutes, de la Chambre d'Agriculture, en me disant comme ça que, attention, on n'a pas encore l'accord de récolter le lait. Parce qu'il y a des gens dans la campagne, c'est bon, le ministre a dit OK, mais il n'y a toujours pas d'accord à l'heure qu'il est. Pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu le feu vert. Ça va peut-être venir ce soir, mais pour l'instant, le préfet, il n'a pas encore dit. Donc, je ne sais pas quoi faire.
Un producteur laitier après auprès de Rouen avec Yasmina Katou.
On va en reparler de cette venue de 3 ministres comme ça en force. Ces ministres qui sortent les rames 15 jours après l'incendie de Rouen avec les grandes voix, ce sera à 18h30.
Vigilance, c'est la consigne qui a été passée partout dans tous les services publics après l'attentat de la préfecture de police de Paris. Vigilance et signalement immédiat en cas de soupçon de radicalisation. Et dans les faits, déjà, on apprend que 2 policiers en poste en Ile-de-France ont été désarmés. L'un d'eux est même sous la menace d'une suspension.
Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces agents ?
Le premier est en poste à la police judiciaire au 36 Bastion, le nouveau siège de la PJ. C'est un officier de 39 ans, signalé dès 2011 parce qu'il s'était marié avec une avocate musulmane, qu'il se laissait pousser la barbe, parlait de plus en plus de religion jusqu'à faire sa prière au bureau. Ses collègues viennent de relancer son signalement. Il a donc été désarmé et il est en congé. Alors qu'entre-temps, l'an dernier, une enquête administrative a levé les doutes sur lui, d'autant qu'il a divorcé. L'autre policier, lui, travaille dans un commissariat des Hauts-de-Seine. Il est converti à l'islam et il faisait du prosélytisme auprès de ses jeunes collègues. Résultat, il a été révoqué l'an dernier, mais il a contesté devant le tribunal administratif qui lui a donné raison. Et donc la police a dû le réintégrer. C'est bien le problème, souligne Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police.
Ça soulève la problématique du droit actuel sur le fait que la problématique de la radicalisation ne soit pas prise en compte et que quand on se sépare d'un policier radicalisé, eh bien, il puisse avoir la possibilité de réintégrer l'institution sur décision de justice. Il faut que le législateur se penche sur cette question de la radicalisation dans les emplois de fonction publique, y compris et surtout dans la police nationale. Est-ce que quand on est radicalisé, on peut être policier ou est-ce qu'on peut tenir un poste dans une administration française ?
Mais dans l'urgence, c'est le principe de précaution qui prévaut. Les policiers sont incités à signaler tout signe d'une possible radicalisation avec le risque d'erreur ou d'amalgame que pointent déjà plusieurs syndicats.
Guillaume Biet du service police justice d'Europe 1.
On va y revenir d'ailleurs à ce dossier. policiers, ces deux policiers soupçonnés de radicalisation dans la police ou dans l'administration. Avec mon invité dans quelques minutes, Jean-Charles Brizard, à 18h20, président du Centre d'analyse du terrorisme. On pourra aussi revenir sur ces événements en Grande-Bretagne. Sébastien, aujourd'hui, un homme a attaqué des passants à Manchester, juste devant un centre commercial.
Oui, attaque au couteau. Il a blessé 5 personnes et a été arrêté. On ne connaît pas à ce stade les motivations de cet homme d'une quarantaine d'années, mais l'enquête est confiée à la police antiterroriste. Selon plusieurs témoins, il s'en est pris à des passants au hasard, déclenchant un mouvement de panique. Écoutez cet employé d'un magasin de fruits dans le centre commercial.
Les gens couraient et hurlaient. J'ai vu une femme recroquevillée dans un coin à côté du distributeur automatique qui hurlait et pleurait. Dans le centre commercial, tout le monde courait dans tous les sens. J'ai demandé, mais que s'est-il passé? Et on m'a répondu, des gens ont été poignardés. La police est arrivée immédiatement.
Témoignage recueilli par Anaïs Cordoba, notre correspondante en Grande-Bretagne. J'ajoute qu'en Allemagne, le suspect arrêté après avoir tué 2 personnes en pleine rue aux abords d'une synagogue mercredi à Halle a reconnu la motivation antisémite de son geste.
18h09 sur Europe 1, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Pour remplacer Sylvie Goulard à la Commission européenne. Une question toujours en suspens ce soir, maintenant que les eurodéputés l'ont écarté.
Alors rien ne filtre, on ne sait pas si cela a fait partie des discussions entre Emmanuel Macron et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui était reçu à l'Élysée tout à l'heure. On connaît l'antagonisme qui existe entre les deux hommes sur la scène européenne. Le président français qui, au lendemain de ce camouflet, appelle aujourd'hui à plus d'unité en Europe.
Nous vivons un moment de l'Europe extrêmement important et sensible. Il y a une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen qui se mettent en place et qui affrontent tous deux une crise politique que nous ne devons pas laisser s'installer et se développer. Je crois dans l'unité. Je pense indispensable que des solutions soient trouvées et je crois indispensable d'avoir une commission forte qui puisse porter des projets ambitieux.
Propos recueillis par Jean-Rémy Baudot, Emmanuel Macron qui doit dîner dimanche avec Angela Merkel, puis verra le président du Conseil européen Donald Tusk lundi.
Et l'autre grand sujet qui sera évidemment évoqué lors de ces rendez-vous, c'est le Brexit.
Oui, on ne sait pas si c'est une éclaircie, mais aujourd'hui le négociateur européen Michel Barnier a salué une rencontre constructive avec le ministre britannique du Brexit, au point que les 27 ont donné leur feu vert pour intensifier les négociations qui vont se poursuivre pour tenter d'arracher un compromis d'ici au Conseil européen prévu la semaine prochaine.
Alors on y reviendra dans le journal de 19h, notamment avec le décryptage d'Isabelle Horry.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, la crise aux urgences, médecins, aides-soignants et infirmiers, tous les personnels se sont rassemblés à Toulouse.
Et puis les Bleus dans le Grand Nord, Islande-France ce soir. Jamais un déplacement facile sur le terrain islandais.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h13 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La crise des urgences, elle se poursuit, Sébastien, aujourd'hui à Toulouse. Tous les personnels de santé se sont mobilisés ensemble pour la première fois.
Des infirmiers, des aides-soignants, des médecins aussi qui se disent à bout de force entre les arrêts maladie et le personnel en grève. Les urgences de l'hôpital de Purpan fonctionnent au ralenti. Camille y travaille comme infirmière. Elle dénonce le manque de permanent d'effectifs.
On court partout, on ne comprend plus ce qu'on fait, on devient des exécutants bêtes et méchants, on fait du flux, on pique à la chaîne, et ce qui a pour conséquence de mettre en danger forcément derrière le patient. Et en fait, on travaille mal, on travaille vraiment mal, on en devient limite maltraitant. C'est des patients qui demandent du temps au niveau relationnel, et en fait, le fait d'aller vite, on n'a absolument pas le temps de faire ça, et ça provoque une violence, mais vraiment, en 3 ou 4 semaines, là, il y a eu 3 ou 4 agressions, mais pas des agressions verbales, ça c'est tous les jours, des agressions physiques. À choisir entre des effectifs et 5 euros de plus par mois, moi je préfère avoir plus de collègues et pas courir partout et bien m'occuper des gens.
Une infirmière de Toulouse au micro de Benjamin Péter.
Le ton monte, Sébastien, entre la Turquie et l'Europe alors que l'offensive turque se poursuit au nord de la Syrie.
La France évoque la possibilité de sanctions européennes contre Ankara. Le président turc Erdogan rétorque en menaçant de laisser affluer des millions de migrants vers l'Europe. Au Kurdistan, c'est la situation des civils qui inquiète la communauté internationale. Ils sont des milliers à fuir. D'autres restent sur place, cloîtrés chez eux comme cette femme que nous avons pu joindre.
On attend notre mort. Il y a des bombardements partout. On ne sait pas ce qui va nous arriver, si on va être tué, blessé ou violé. Les habitants ont commencé à fuir les villes, les rues sont désertes et tout est fermé. Alors notre message au monde, c'est qu'il faut arrêter cette occupation immédiatement. Ou sinon, ce sera un désastre. Des milliers de personnes vont mourir, des enfants et des femmes, et ils sont innocents.
Témoignage recueilli par Johanna Chabas. Et ce soir, les kurde affirme que 5 djihadistes ont fui d'une prison après des bombardements turcs.
Le retour des Bleus, bah c'est ce soir, ça y est, match des qualifs pour l'Euro 2020. Vous allez pouvoir le suivre, ce match, en direct sur Europe 1.
Ouais, les Bleus sont dans le Grand Nord, sur les terres islandaises. Déplacement souvent difficile, on connaît le public. Vous vous souvenez du clapping, le climat aussi. Il y a aussi le terrain, un stade ouvert à tous les vents. C'est pas facile, mais surtout pas une raison de se décourager, dit Didier Deschamps.
Cette équipe d'Islande est plus performante à domicile et dans un contexte spécifique... où il y a une piste, le terrain est bon, c'est déjà une très bonne chose, mais voilà, il est vasé, il n'y a pas des tribunes partout, donc c'est un contexte peut-être inhabituel pour la plupart des joueurs, mais bon, ça reste un terrain de foot, et on ne vient pas ici en se disant, oui, on les a battus chez nous, allez, on joue et de toute façon on gagnera, non, c'est plus ça le haut niveau, non.
Didier Deschamps, soirée spéciale, dès 20h sur Europe 1. Et on verra si la température est si glaciale dans ce stade tout à l'heure dans le journal de 19h.
Mais oui, ils vont faire coup double, ça va aller. Vous allez voir, Sébastien, on va se réchauffer. Vous revenez en tout cas à 18h30 pour de nouvelles infos. Anissa, la météo de ce week-end, au départ ça devait être bien, mais finalement la France est coupée en trois.
C'est ça, exactement ça Nathalie. Trois parties, trois temps différents. Au nord, en Normandie et en Bretagne, le ciel est couvert toute la journée demain avec des averses et du vent du sud sur les côtes bretonnes et normandes jusqu'à 50 km/h. Alors sur le golfe du Lion, ça c'est bien plus au sud, les entrées maritimes du matin vont vous apporter des nuages, des averses et le vent d'autant qui se lève et qui souffle jusqu'à 70 km/h. Sur les Cévennes, prudence, les pluies seront assez soutenues dans ce secteur. Partout ailleurs, si je n'ai pas cité votre région, ça veut dire qu'au-dessus de vos têtes, vous aurez un ciel partagé entre nuages et éclaircies avec quelques petites averses possibles dans la journée. En fait, le seul endroit où il fait beau demain, c'est sur toute la façade est, de l'Alsace à la Côte d'Azur. Journée ensoleillée avec de très belles apparitions du soleil. Dimanche, même menu. Grisaille et averse.
Demain, ça va pas du tout.
Non, ça va pas du tout. Les températures demain sont comprises entre 8 et 17 degrés le matin, 8 à Belfort, 17 à Biarritz. Dans l'après-midi, il fait chaud dans le sud. 30 degrés, la barre des 30 degrés au sud-ouest à Mont-de-Marsan, 25 à Clermont-Ferrand, 21 à Paris et 18 seulement à Lille. Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le suspect de l'attentat de Manchester arrêté pour terrorisme, l'attentat de la préfecture de police de Paris, pourquoi n'a-t-il pas encore été revendiqué, l'offensive turque en Syrie, quelles conséquences en Europe et en France? Beaucoup de questions qui se posent et que je poserai à mon invité dans une seconde, le président du centre d'analyse du terrorisme, Jean-Charles Brizard.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Il est 18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir Jean-Charles Brizard. Il est le président du Centre d'analyse du terrorisme.
Bonsoir Jean-Charles Brizard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir au micro d'Europe 1. L'actualité est très chargée, évidemment. 5 personnes poignardées aujourd'hui devant un centre commercial de Manchester en Angleterre. Un homme arrêté, police antiterroriste saisie. Autre mobile, autre fait, l'antisémitisme. 48 heures avant, une attaque qui fait 2 morts près d'une synagogue à Halle. En Allemagne, le tout une semaine après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Évidemment, je ne fais pas de lien, mais quand même, l'hypermédiatisation de ces drames, est-ce qu'elle peut déclencher un passage à l'acte chez des individus qu'on appelle couramment des loups solitaires? Vous allez peut-être me reprendre sur ce terme-là, mais c'est comme ça que couramment ils sont nommés.
Oui, effectivement, le terme est impropre, c'est un terme médiatique, évidemment. Il n'existe pas en réalité de loups solitaires dans les enquêtes policières. Ce sont des individus qui sont animés la plupart du temps par une idéologie, alors quelle qu'elle soit, islamiste, d'extrême droite, d'extrême gauche, et qui suivent des préconisations généralement, et surtout des mentors, des écrits, etc. Et on y viendra peut-être. Mais il y a aujourd'hui effectivement sans doute une phase, comme celle qu'on connaît, avec, vous le rappeliez, plusieurs incidents multiples, de nature très variée, avec des motivations très différentes aussi, mais qui finalement expriment une sorte d'effet mimétique aussi qu'on observe. Au fil du temps, avec des périodes d'accalmie et puis des périodes plus intenses où les individus, finalement, sont incités à passer à l'acte, soit par une propagande spécifique, soit par l'action, tout simplement, d'autres.
Est-ce qu'on y a cru, Jean-Charles Brizard? Est-ce qu'on a cru à un moment ou est-ce qu'on a été moins attentif ces derniers mois face à la menace terroriste suite à l'effondrement de Daesh?
C'est malheureusement humain. On a effectivement, dans beaucoup de domaines, baissé la garde, très certainement. L'attentat à la préfecture de police de Paris en est certainement un des exemples, hein, effectivement, notamment s'agissant de la détection de cet individu. Oui, c'est bien sûr.
Évidemment, on a appris aujourd'hui que deux policiers soupçonnés de radicalisation avaient été désarmés cette semaine en Île-de-France à la suite de signalements. Cela n'est pas passé inaperçu et pour cause. Est-ce qu'on peut mettre en place, Jean-Charles Brizard, des formations sur les signes de radicalisation pour les forces de l'ordre ?
Mais ça existe déjà. Le CIPDR, par exemple, le Comité interministériel pour la prévention et la lutte contre la radicalisation, dispense des formations vers les élus locaux en particulier, et des formations qui sont extrêmement suivies et très
depuis
utiles.
Depuis 2014, en effet.
On fait de la formation et de la sensibilisation.
Mais est-ce qu'il ne faut pas alors généraliser ces formations, par exemple à tous les cadres de la fonction publique?
Ce qu'on peut dire, c'est que le système actuel, il est perfectible. D'abord, c'est une première chose à dire.
Avant de généraliser, approfondir, préciser.
Il ne faut jamais oublier que plus de 50% des individus qui sont passés à l'acte dans notre pays depuis 2013 étaient inconnus des fichiers des services de renseignement. Ça veut dire qu'ils n'avaient tout simplement pas été détectés. Donc ça veut dire que le système est perfectible. On peut adapter, bien sûr, on doit adapter nos dispositifs à la réalité du terrorisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant. Un terrorisme diffus, local, extrêmement difficile à prévoir et à anticiper. Et à prévenir, bien sûr. C'est la raison pour laquelle aussi le président de la République a eu les mots justes, je crois, lorsqu'il s'est exprimé à ce sujet-là, en disant que l'État ne peut pas tout. Moi, je le dis depuis des mois et des mois. L'État ne peut pas tout. Les services de renseignement ne peuvent pas tout. Il faut absolument s'appuyer sur d'autres capteurs, d'autres acteurs de terrain, sur le plan social, éducatif, scientifique, religieux, etc. Et notamment sur les acteurs locaux, les maires, par exemple, qui ont à leur disposition un nombre de capteurs inimaginables. Que n'ont même pas les services de renseignement. Donc tout ça, il faut aller plus loin, plus vite. Il y a eu un début d'amélioration avec une circulaire, notamment Castaner, le 13 novembre dernier, pour l'échange d'informations avec les maires, entre les préfets et les maires, sur les fichiers, notamment les fichiers S. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin aussi en levant des blocages qui existent dans notre pays. La CNIL, par exemple, bloque un certain nombre d'innovations technologiques qui permettraient de renforcer la sécurité de nos concitoyens au quotidien. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
Je voudrais juste qu'on avance, Jean-Charles Brizard, la tuerie de la préfecture. La structure de police, elle n'a toujours pas été revendiquée, a priori, sauf si vous avez une information dont je n'ai pas eu vent.
Hier soir, l'État islamique a mentionné...
Communique dessus, comme on a eu déjà l'habitude de ce process, mais il n'y a pas de revendication. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, puisqu'ils sont assimilés, néanmoins, en tout cas, ils se vantent, malgré tout, de cette tuerie.
Alors, lui ne s'est pas revendiqué l'État islamique, à ma connaissance, à ma connaissance aussi, jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont pu établir aucun lien entre l'individu et une organisation terroriste ou une mouvance terroriste.
Alors, comment on fait pour lutter contre des potentiels terroristes qui sont influencés, extérieurs à l'organisation? Parce que du coup, on est un peu dans le schéma-là.
Les terroristes, et celui-ci aussi, se nourrissent tous d'une matrice idéologique. L'islamisme radical, qui n'est pas une religion, c'est pas l'islam, c'est une idéologie, c'est une doctrine politique. Et cette doctrine, elle doit être combattue, non seulement parce qu'elle est contraire aux valeurs de la République, mais aussi parce que son objectif, son but, c'est d'anéantir les valeurs qui fondent notre société. Donc effectivement, le président de la République a eu raison aussi, là, sur ce point, d'évoquer l'hydre islamiste, parce qu'effectivement, c'est une idéologie de violence, et il n'y a pas de tolérance à avoir à l'égard d'une telle idéologie.
Il y a un changement de ton, parce que vous faites référence à deux reprises, évidemment, à Emmanuel Macron. Il y a un changement de ton radical aujourd'hui. Il y a une prise en main et un discours sur ces sujets régaliens sur lesquels on ne l'entendait pas. Une prise de conscience ou en tout cas un virage.
Il y a une vraie prise de conscience. Alors le virage, on le verra dans les actes. Ça se traduit par les actes, c'est le plus important. Mais en tout cas, sur le discours, effectivement, il y a un vrai tournant, me semble-t-il. Parler d'une société de vigilance, c'est nouveau. Il l'avait certes déjà fait, mais pas dans ces termes-là aussi précis. Je pense qu'il a raison de ce point de vue-là, je l'ai dit, à l'égard des autorités locales, à l'égard des citoyens aussi, qui doivent être mobilisés finalement, parce que c'est une mobilisation qu'il faut face à ce fléau. Et puis, effectivement, nommer les choses.
L'offensive turque contre les Turcs en Syrie, on en parle évidemment depuis un peu plus de 48 heures maintenant, on entend partout que cela joue favorablement en faveur d'un retour de Daesh, que on a des islamistes à nos portes potentiellement.
Alors d'abord, je voudrais rectifier une chose, parce qu'on a souvent parlé de retour de Daesh, de possible dans cette région du monde. Daesh n'a jamais quitté cette région. J'y étais il y a quelques semaines encore. Il y a des cellules qu'on appelle dormantes. En réalité, elles ne dorment pas du tout, elles ne sommeillent pas du tout. Ce sont des cellules clandestines. Il y a eu plus de 400 attentats revendiqués par l'État islamique dans cette région depuis la chute du dernier bastion de l'État islamique, celui de Pagouz.
Mais donc, ils ont quand même, pardonnez-moi, ils ont encore des réseaux, ils ont encore des ressources suffisamment.
Bien sûr qu'il a des ressources. Bien sûr que l'État islamique dans cette partie du monde a encore des ressources financières extrêmement importantes, évaluées jusqu'à 300 millions de dollars.
Qui permettraient de frapper de la même ampleur, de la même envergure que les attentats de 2015.
Alors, on parle de deux choses là, parce que vous faites référence à ce qu'on appelle une menace projetée, c'est-à-dire des attentats qui seraient le fait d'individus envoyés depuis. Puis la zone syro-irakienne, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour eux, c'est même impossible. On est face à un terrorisme de plus en plus inspiré, mais ce qu'on voit, c'est que l'État islamique progresse encore, continue à exister, en tout cas, à travers les réseaux sociaux, des messageries cryptées, sa propagande se diffuse et nourrit précisément ces passages à l'acte. Des attentats, je le disais, sont commis au quotidien, quasiment là-bas. Aujourd'hui, la situation qui est une situation de confusion, d'instabilité politique, effectivement, est une aubaine pour ces réseaux qui en profitent. On l'a bien vu ces derniers jours, avec des tentatives de soulèvement dans les camps de femmes, des évasions, dit-on, aujourd'hui, mais ça n'étonne pas personne, en tout cas pas ceux comme moi, qui, depuis des semaines, des mois, rappelons que, s'agissant de nos djihadistes en particulier, qui sont détenus là-bas, le mieux est de les rapatrier pour notre propre sécurité, parce que le risque est grand de les voir, effectivement, s'échapper,
dans
s'évanouir.
Dans la nature, voilà. S'évanouir. Et merci beaucoup Jean-Charles Brizard d'être venu ce soir au micro d'Europe 1, président du Centre d'analyse du terrorisme. Merci à vous.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, à suivre Nathalie Lévy.
Les grandes voix dans un instant avec ce soir. Mickaël Darmon d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique. Ensemble, on va revenir sur la semaine très politique et compliquée pour Emmanuel Macron. A tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres signé Sébastien Krebs.
À Rouen, les restrictions frappant les producteurs de lait ne sont toujours pas levées ce soir. Aujourd'hui, trois ministres ont fait le déplacement. Lubrizol s'engage à indemniser les agriculteurs. Un fonds de solidarité de 50 millions d'euros sera créé. Une embellie sur le plan de la sécurité routière. Après un mois d'août particulièrement violent, le nombre de morts sur les routes est en baisse en septembre. 9 de moins que l'an dernier. Quelles étaient les motivations de l'assaillant de Manchester? Elles sont inconnues encore ce soir. L'homme est interrogé par la police antiterroriste. Ce matin, il a attaqué des passants à l'arme blanche dans un centre commercial et blessé 5 personnes. Le prix Nobel de la paix attribué à l'artisan d'une réconciliation historique en Afrique de l'Est, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, récompensé pour avoir mis fin à 20 ans de guerre avec le pays voisin, l'Érythrée. C'est le scénario que redoute la communauté internationale. Est-il en train de se réaliser en Syrie? Les Kurdes affirment que 5 djihadistes de Daesh ont fui une prison à la faveur des raids aériens menés par les Turcs dans les environs. Aujourd'hui, le ton est monté entre l'Europe et la Turquie. La France évoquant la possibilité de sanctions. Et puis les Bleus en Islande, ce soir, match comptant pour les qualifications de l'Euro 2020. Islande-France, coup d'envoi 20h45, soirée spéciale dès 20h sur Europe 1.
Et vous revenez, Sébastien, à 19h avec un nouveau journal complet.
A tout à l'heure.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, un vrai week-end d'automne.
C'est ça.
C'était
canapé.
Pas du tout ce que vous nous aviez promis.
Ben oui, mais tout a changé à la dernière minute. Donc ça sera canapé, plaid et séries. Au nord-ouest, en Normandie, en Bretagne, pluie et nuages accompagnés de vent du sud jusqu'à 70 km/h. Au sud, le long du golfe du Lion et dans les Cévennes, là c'est le vent d'automne qui se lève avec des rafales jusqu'à 70 km/h accompagnées d'averses. Des averses très soutenues, surtout dans les Cévennes. De l'Alsace à la Côte d'Azur, là c'est le soleil quand même qui est là, qui domine sur toute la frontière est du pays. Ailleurs, si je n'ai pas cité votre région, eh bien vous aurez un ciel voilé avec quelques éclaircies et quelques petites gouttes possibles. Les températures 8 à 15 du nord au sud le matin, 30 degrés demain après-midi dans le sud-ouest, 21 à Paris, 23 à Marseille, 18 à Lille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec les grandes voix, ce vendredi, sont réunies dans ce studio. Mickaël Darmon d'Europe 1, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno Jeudy.
Bonsoir Nathalie.
Bruno Jeudy de Paris Match. Laetitia Krupa est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique. Et vous, auditeurs au 39-21, n'hésitez pas, pendant une demi-heure jusqu'à 19h, à nous contacter. Bien sûr, on va refaire la semaine politique qui a été pour le moins chargée. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer par le fait du jour. C'est quand même trois ministres à Rouen aujourd'hui. On sort les rames, Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Didier Guillaume. On est 15 jours après l'incendie à l'usine Lubrizol pour installer ce comité pour la transparence et le dialogue. C'est ça, on sort les rames, Bruno Jeudy.
Oui, c'est assez étonnant en fait. L'explosion incendie dans cette usine a montré les lacunes du gouvernement en matière de communication. Alors c'est pas facile, mais c'est vrai qu'une communication classique à l'heure en 2019. Ben c'est simple, ça ne marche pas. Et on peut y mettre toute la bonne volonté, ça ne marche plus. Donc là, on voit que ce gouvernement, qui doit être celui du Nouveau Monde, eh bien, dans le Nouveau Monde, on n'arrive pas à rassurer une population qui vit autour du Grand Rouen. Et ça n'a pas marché. Ça pose vraiment de grosses difficultés, parce qu'on voit que ni le Premier ministre, ni les ministres de la meilleure volonté qui puissent, qui soient issus de l'Ancien Monde, comme le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, ou du Nouveau, comme Agnès Buzyn, ben ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, ils ont essayé de mettre encore un grand bazar pour essayer de rassurer.
Et alors attendez, parce que vous dites un grand bazar, Laetitia, on va compléter, un grand bazar qui s'ajoute au bazar, parce que là, quand ils parlent des analyses qui sont faites sur le lait et qui disent que tout est normal et qu'on va pouvoir y aller, les producteurs de lait vont peut-être pouvoir vendre leur lait. C'est pas clair non plus, ils nous l'ont
et
dit tout
voilà,
à l'heure.
Vous pointez le problème en fait de cette crise de communication, comme vous l'avez dit Bruno, il y a une énorme incompréhension de l'opinion publique. Or, le gouvernement a parié sur une irrationalité, une émotivité. Il y a une mauvaise conception, une mauvaise appréhension de ce qu'est aujourd'hui l'opinion publique au temps des réseaux sociaux. Quand on lit et quand on analyse, quand on fait des data, c'est-à-dire qu'il y a eu des analyses scientifiques qui ont vraiment pris toutes ces productions sur les réseaux sociaux, ce qui en ressort, c'est que les gens ne comprennent rien. D'un côté, au départ, on leur dit ça sent mauvais, mais ce n'est pas toxique. Agnès Buzyn qui, dans la foulée, nous dit « Rouen est très pollué », ça n'a été que ça. En fait, ça a été un début.
C'est une cacophonie
de et l'incompréhension du grand public, voilà. Et ça continue
jusqu'à aujourd'hui.
Oui, on a l'impression que ça va devenir un peu même l'arche narrative de ce quinquennat qui a commencé avec la première loi qui devait être la loi de confiance et qui devait changer les usages, les modes de fonctionnement, renouveler la pratique démocratique. Et depuis, tout à chaque fois, chaque événement dans son couloir, dans son contexte, vient télescoper ce principe. La crise de Rouen, c'est évidemment la crise majeure de confiance dans la parole publique. On le voit bien, on le répète, on va le voir encore finalement tous les jours, on le voit encore aujourd'hui. Aller venir installer un comité de transparence, les gens se disent automatiquement, c'est suspect.
Ça veut dire que
c'est la transparence, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. On est dans une...
C'est un peu la quadrature du
cercle. Tout est inversé. Exactement. Et on ne comprend effectivement plus rien. C'est la difficulté majeure du mandat aujourd'hui de Macron.
Alors le problème, c'est qu'en plus ça s'est un peu inscrit comme ça toute la semaine. On va y revenir dans un instant avec Christophe Castaner et puis aussi avec Isabelle Goulard. Je voudrais juste qu'on soit en ligne avec Richard qui nous appelle ce soir du 76.
Bah, oui,
du coup, vous êtes juste à côté de Rouen. Bonsoir à vous.
Oui, 25
Richard.
Kilomètres. Oui,
c'est
bonsoir,
ça.
Oui.
Bonsoir.
Oui.
Vous êtes sensible là au déplacement, l'armée mexicaine en quelque sorte.
Non, du tout. Je suis pas sensible parce que depuis le début. On a été mené entre guillemets en bateau, quoi. Bon, la population rouennaise et métropole a été touchée. Et je pense que le gouvernement, au début, c'était une ingérence. Ils n'ont pas pris mesure des conséquences, quoi. Parce que psychologiquement, on a été touchés. Moi, mes enfants habitent à Picouronne et au début, on nous a dit que l'entreprise avait, explosé entre guillemets. Mais si elle avait explosé, il y aurait plus Rouen, Piquevilly, etc. Ouais. Bon, bref. Mais psychologiquement, je pense qu'on a été touchés, oui.
Et puis, psychologiquement, évidemment. Merci beaucoup, Richard. Et on était chez vous à Rouen la semaine dernière, dans les locaux de Paris-Normandie. On a vu, évidemment, une population touchée.
Et puis, ce qui est absolument frappant, c'est qu'en réalité, c'est le gouvernement qui est sans arrêt mis sur la sellette, alors que c'est d'abord une entreprise qui a, quelque part, un lieu privé, certes, coordonné avec les pouvoirs publics parce que c'est extrêmement sensible, mais il a fallu plusieurs jours pour que les gens de Lubrizol se mettent à parler, notamment le responsable Monde en disant on est désolé, mais c'est le gouvernement français, ce sont les autorités qui sans arrêt sont sur la sellette.
Le briseur qui s'engage à indemniser ce soir les agriculteurs touchés par... Oui, le lendemain
mais dans des médias locaux,
c'était compliqué,
radio,
hein, comme je sais pas
le
si
le surlendemain mais dans, non non mais factuellement oui. Factuellement voilà, Louis-Rizol a parlé oui dans les médias locaux et hier sur une chaîne d'info en continu, mais c'est vrai que cette rareté de la parole a ajouté au doute.
Et Louis-Rizol qui s'engage ce soir à indemniser les agriculteurs touchés par les restrictions. Sylvie Goulard, on va en parler aussi, mais c'est juste après la pause.
Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Mickaël Darmon d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Et toutes vos réactions en direct au 39-21.
On refait la semaine politique avec nos camarades ce soir en studio. Et si vous nous écoutez, n'hésitez pas aussi à nous interpeller. Alors, on était à Rouen il y a quelques instants et puis on se pose la question de cette... claque, vous allez me dire c'est une claque, mais quand même, Sylvie Goulard retoquée hier pour Emmanuel Macron, à part une claque, qu'est-ce que c'est quand on dit que c'est une écrasante majorité de 82 voix contre, pour rappel, 29 pour et une abstention. C'était sa candidate pour... C'était sa candidate. Il l'avait défendue envers
absolument.
Et contre tout, Bruno Jeudy. C'est une claque, alors.
Oui, c'est un camouflet en bonne et due forme, un camouflet politique, diplomatique. Et j'allais dire, c'est sa faute à lui tout seul, puisque tout le monde l'a mis en garde. Donc là, pour le coup, c'est même étonnant qu'il y ait eu une surprise hier, alors que depuis plusieurs jours, tous les feux, tous les clignotants étaient au rouge. Ces oraux se sont très mal passés. Deux commissaires avaient été retoqués quelques jours plus tôt, côté socialiste, le roumain et les hongrois. Alors là, pour le coup, c'était les marcheurs qui avaient retoqué. Alors vraiment, tout, on allait dans le mur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'hier, il y a eu la réaction du président de la République qui m'a laissé sur le cul. En quelques phrases, on a eu tous les défauts qui se sont... On avait l'arrogance, on avait le mauvais perdant,
il a tout balancé,
la colère surjouée, la mauvaise foi, voire même peut-être de choses un peu fausses, parce que l'histoire des présidents de groupe,
il s'est fait retoquer.
Franchement, hier, c'était vraiment une très mauvaise...
Quelle amertume.
Mais ce qui est encore étonnant, c'est qu'une fois de plus, celui qui nous avait posé le nouveau monde, les codes, les usages vont changer, a travaillé vraiment dans le plus peu style qu'on pouvait faire il y a très très longtemps, avec des combinaisons politiques, une volonté d'imposer quelqu'un qui était très fragile. Et puis, il s'étonne de voir qu'il y a des eurodéputés qui sont indépendants, qui sont de nouvelle génération,
qui ont tous
vu Borgen. Ils savent tous que maintenant, on change un peu les codes. Et c'est très différent. Évidemment, stupéfiant de l'entendre dire « je veux comprendre », comme si lui, il ne comprenait pas. Alors vraiment, lui ne comprend pas ce qui s'est passé. Non, mais on comprend
c'est
bien
dommage
que là,
parce qu'il avait plutôt pris la main avec les élections européennes.
C'était simplement de la façade, de ce point de vue-là. Et on voit bien aussi que dès qu'il touche quelque chose en Europe, ça ne fonctionne pas.
Et c'est le
problème. Depuis le début du mandat.
Et alors, pardonnez-moi, je poursuis là-dessus. C'est que le problème, c'est que c'est quand même lui, il s'est quand même vendu comme étant le représentant de l'Europe, comme leader de l'Europe.
Lui, bien sûr, il n'arrête pas depuis son arrivée à l'Élysée de vouloir incarner le nouveau leader de l'Europe. Rappelez-vous la une du Time Magazine. The next leader of Europe, c'était il y a quelques semaines.
Rappelez-vous, la presse unanime
qui saluait le super diplomate de Biarritz.
Il y avait une vision, il y avait un discours, c'est vrai, mais il y a la pratique qui est totalement...
Il faut aussi un petit peu faire notre mea culpa. On y croyait, on lâche.
Non, je ne suis pas d'accord.
Non, parce que moi, je pense qu'il conserve des cartes. Oui. Mais en Europe, c'est compliqué. On n'est pas tout seul. Et ça passe par des compromis. Et il ne pouvait pas imposer. Et puis surtout, il a quand même choisi une candidate qui n'était pas propre comme un
soumis. La semaine dernière, je parlais avec des gens qui étaient à la Commission européenne. Et autour de la machine à café, il nous disait, mais elle va se faire rejeter. Pourquoi vous vous posez la question? C'est évident.
Mais est-ce qu'il est discrédité? Est-ce qu'il est discret, non, Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est un épiphénomène? On va oublier parce que de toute façon, il y aura quelqu'un pour la remplacer.
Voilà, ça d'abord, va être... honnêtement, j'allais dire. Question grand public, ça leur passe quand même assez loin. Ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Rouen a beaucoup plus de conséquences et la préfecture de police beaucoup plus que. Mais sur le plan européen, oui, à chaque fois, il est quand même un peu. On voit bien qu'il va être obligé d'apprendre à composer, même si aujourd'hui
il est quand même sans doute
le leader qui est quand même le mieux installé politiquement, puisqu'on voit bien qu'autour il y a des difficultés
Brexit,
partout.
On a quand même deux informations. Il a du mal à appréhender une situation puisque vous l'avez dit. Effectivement, tout le monde lui disait. Donc il y a un certain degré de surdité qui est inquiétant. Et en plus, il est surpris. Et du coup, l'Élysée envoie illico une consigne aux membres du gouvernement pour dire vraiment zéro commentaire sur ce fait-là. Donc là, ça pose trois problèmes. Et Emmanuel Macron est le seul maître de sa communication, on l'a vu hier.
Voir une lecture de l'histoire, ouais. C'est une crise allemande, alors que ce n'est pas une crise
européenne,
allemande.
Exactement.
Allez, on continue à dérouler cette semaine politique avec vous trois dans un petit instant.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. N'hésitez pas à réagir au 39-21. Votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix ce soir. Mickaël Darmon d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, et toutes vos réactions, notamment sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et puis les auditeurs aussi, on va d'ailleurs reprendre en ligne un d'entre eux dans une petite seconde. Les amis, je vais vous demander simplement de commenter et d'essayer de répondre à une de mes questions, parce qu'on refait le film de cette semaine politique et la question, évidemment, elle se pose autour de Christophe Castaner. Sa personnalité, son travail, ses compétences, son attitude, son indolence parfois, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Bon bref, est-ce que Emmanuel Macron peut sacrifier Christophe Castaner, oui ou non? Tour de table, Mickaël Darmon.
Pas allez. Pour l'instant, mais une fois de plus, il illustre un mode de gouvernance qui ne correspond en rien à la promesse de renouveau des méthodes. Il le soutient parce que c'est son ami, parce qu'il a été nommé là, qu'il ne peut pas se déjuger et qu'on nomme un ami au ministère de l'Intérieur dans la plus classique des traditions. Alors qu'il faudrait peut-être, au fond, réagir et remettre tout à plat. Mais là, le temps politique ne le permet pas.
Bruno, je poursuis ma question. Il est un boulet, on va le dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il est un boulet, Christophe Castaner, pour le président?
Ah, c'est le maillon faible du gouvernement. C'est clair que la sécurité, ça ne fonctionne pas pour Emmanuel Macron, mais plus globalement, il y a trois secteurs qui sont vraiment très compliqués pour le président et qui sont les trois secteurs de l'acte 2, la sécurité, l'Europe et l'écologie. Et là, on vient d'illustrer avec votre émission les trois problèmes qui viennent de se poser à Emmanuel Macron. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est même globalement, il a toujours subi les remaniements et il devrait être proactif et c'est là qu'il devrait peut-être ne pas attendre. Chaque mois qui passe, c'est des ennuis un peu plus.
Bah oui, alors la question qui entraîne une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il résiste? Vous avez parlé de cette proximité, Mickaël Darmon, mais moi je me dis, est-ce qu'il ne finalement sur la longueur il va pas tenir parce que aussi il plie mais il ne cède pas.
Oui, mais il va tenir, mais de quelle façon va-t-il être audible? Est-ce qu'il est encore audible, Christophe Castaner? Je ne pense pas. Alors on reste à ce poste clé, sans pouvoir parler, sans pouvoir être crédité par l'opinion publique d'une légitimité, d'une crédibilité. Comment fait-on pour rester à ce poste-là?
En tout cas, dans il se fait un peu plus accepté par les syndicats policiers. C'est déjà...
Oui, en tout cas.
Oui, mais ça, c'est normal. Il a tout donné aux syndicats policiers, il a promis de payer les heures sup, il a tout promis. Donc,
il s'est occupé des suicides. Il y a un travail interne qui est intéressant. Après, peut-être qu'aussi l'opinion publique est maintenant fataliste, n'attend pas grand-chose aussi, tout simplement, d'un ministre de l'Intérieur, sachant que tout repose, de toute façon, sur le président de la République. On le voit à chaque fois qu'il faut faire un débat sur n'importe quel sujet. On a 7 heures de débat.
C'est quand même embêtant, Michael, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Il y a eu des ministres de l'Intérieur qui rassuraient l'opinion alors que les présidents étaient faibles. Je pense à François Hollande notamment.
Plus globalement, moi, ce qu'on comprend, c'est qu'au fond, c'est la fin de l'été indien. Hein. Ça avait commencé avec le G7, on croyait que ça y est, c'était le renouveau. C'était arrivé. On ne gagne jamais rien sur l'international. Aujourd'hui, on voit bien que les sujets lourds vont arriver. L'automne social va commencer aussi à arriver avec toutes les manifestations. Et cette fois-ci, eh bien, une fois de plus, Macron commence à reperdre la maîtrise du tempo.
Fillon le retour. François Fillon le retour. Il est arrivé alors que personne ne l'attendait, si ce n'est qu'il y a l'élection quand même du président des Républicains dimanche, qui s'en préoccupe, vous me direz dans un petit instant. Il est arrivé comme ça à la télévision suisse sans prévenir. Il y a eu le petit tac là, Emmanuel Macron. Moi j'ai fait largement mieux. Hein. On a passé l'extrait sonore évidemment hier plusieurs fois. J'ai fait largement mieux que les Gilets jaunes en mobilisant contre moi dans la rue. Et puis il s'est adressé aussi aux Républicains. Écoutons.
Je pense que la droite française s'est suicidée avec ses divisions, et ça commence pas avec la campagne présidentielle, c'est bien plus ancien. Il y a quand même depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, uniquement individuelles, uniquement d'égo, et il n'y a pas beaucoup de débats idéologiques. Ce qui a animé la droite depuis les 20 dernières années, c'est pas des débats idéologiques.
Philippe nous appelle de Nantes. Bonsoir à vous, Philippe. Vous êtes filloniste, je crois. Hein ?
Absolument.
Le retour de François Fillon, l'élection à la présidence des Républicains dimanche, ça y est, vous y croyez, c'est...
Oui, enfin le retour de François Fillon, je ne pense pas que ce soit un retour en politique, mais cela dit, moi ça m'a fait du bien de le voir et de l'entendre. Ouais. J'ai participé à sa campagne, j'étais au Trocadéro et j'en suis fier, même si je ne fais pas partie de Sens Commun, mais j'y étais, il y avait du monde, et ça fait un grand vide, enfin pour nous les militants LR... Après la présidentielle, il y a eu vraiment un grand vide et bah, le voir, c'est peut-être bête, mais psychologiquement, ça m'a fait du bien. Bon. On est passé à côté d'un grand homme politique, à mon avis.
Alors dimanche, élection du président LR, Christian Jacob tient la rampe, la corde.
Oui. Bon, ça, on va laisser passer. On va voir plutôt ce qui va se passer après. Je pense.
Vous êtes effectivement, comme vous l'avez dubitatif.
Oui, oui, ça ouais. fait pas la une des journaux. Vivre. C'est bon, ça va passer. Je pense que moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer après, ce que la droite va réussir enfin. Ouais. À s'unir et à proposer un programme qui puisse être crédible et faire une bonne concurrence à Macron pour éviter l'extrême droite.
Merci beaucoup Philippe de votre appel depuis Nantes. Merci à vous. Alors, tour de table de nouveau à vous trois. D'abord Fillon quand même sur la droite, Fillon sur Macron. Qu'est-ce que ça veut dire ce retour à la télé suisse
de bon, alors, il n'y a pas de retour. François Fillon qui... Ça sert à quoi? Mais François Fillon, il est retiré de la vie politique. Il est plutôt maintenant, il parle en homme libre. Bon voilà, j'ai trouvé que son propos était pas bien ajusté, pas bien calibré. La comparaison entre Gilets jaunes et ses réformes des retraites n'était pas très habile. Mais ce qu'il dit sur le fond de la réforme des retraites, à mon avis, est plutôt juste, parce que cette réforme des retraites, celle d'Emmanuel Macron, est mal embarquée. On peut quand même créditer à François Fillon d'en avoir fait deux, d'avoir plutôt sauvé éviter que les caisses soient en faillite. Après, je pense que François Fillon, aujourd'hui, il va falloir s'habituer, il va parler.
Il va faire des petites sorties comme ça.
Peut-être donner un peu son avis. Bon, sur la droite, je ne suis pas sûr qu'il soit le mieux placé tout de suite pour en parler. Mais bon, en même temps, d'autres parlent. On voit bien que la droite, elle a un problème, c'est qu'elle a des fantômes et que ceux qui sont en piste aujourd'hui, soit ils ne sont plus dans le parti, soit ils ne sont pas assez capés pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Et du coup, ça illustre tout à fait la difficulté de la droite. Mais on a Nicolas Sarkozy, on a François Fillon.
Qui a sabordé la droite? Mais quel culot! Mais enfin, quand même, qui est responsable du naufrage de la droite, enfin François Fillon, quel culot.
Comme vous y allez.
Quel culot. Et du coup, sa parole est complètement, à mon sens, démonétisée et ça fait pchit. Voilà.
Ah, bon, je
oui,
sais pas.
Michel Darmon,
et ce sera terminé.
J'ai eu envie de faire un effet. Moi,
François Fillon, c'est vrai que sur la réforme des retraites, il sait de quoi il parle. C'est lui qui a aligné les régimes à l'époque. La vraie première réforme, c'est lui qui l'a faite. Après, la performance, c'est pas de mettre des gens dans la rue. Hein. C'est de rassembler et de faire en sorte qu'on règle leurs problèmes.
Merci à tous les trois, les grandes voix de ce vendredi. C'était un plaisir.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité ce soir. Le coup d'envoi, c'est dans 1h45 du match Islande-France, match important pour les qualifications à l'Euro 2020. Et je donne aussi un rendez-vous, ce sera dimanche 10h à 11h, le grand rendez-vous. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sera l'invité, entre autres, de Michaël Darmon.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, vous êtes sur Europe 1, jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy.
Merci d'être avec nous, 19h10, je vous livre le programme, bien sûr, l'invité politique de David Doucan. Ce soir, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, sera dans ce studio. 19h20, demain en France, direction la Gironde, demain dans le monde, on va partir où? Eh bien à Madrid. Et puis à 19h30, l'hyperviolence au cinéma. Est-ce que vous allez laisser vos ados aller voir Joker sur grand écran ce week-end, ce film qui fait l'apologie de la violence? C'est un vrai débat que nous aurons ici même et on vous attend pour en parler au 39-21.
Mais vous pouvez également participer au débat. Si vous avez peut-être vu ce film Joker, n'hésitez pas. Ça se passe sur les réseaux sociaux aussi avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Sébastien Krebs et Nathalie Lévy sont sur Europe 1. Il est 19h.
Vous reconnaissez le fameux clapping islandais. Les Bleus, ils sont préparés ce soir. Islande-France à Reykjavik avec quelques petits degrés seulement. On va sur place dès le début du journal.
Et c'est un tournant. Les Européens donnent leur feu vert à une intensification des négociations sur le Brexit. Décryptage d'Isabelle Horry à suivre.
Dans l'actualité aussi, la colère des producteurs de lait à Rouen. Les restrictions ne sont toujours pas levées. Le prix Nobel de la paix attribué au Premier ministre éthiopien. Et puis l'enfant des quartiers nord qui remplit le Vélodrome à Marseille. Et ce soir, Soprano, double concert événement, 100 000 spectateurs attendus.
La tendance météo avec vous, Anissa.
Pour demain, c'est simple, parapluie quasiment partout en France, parasol à l'est.
Europe 1.
Pas de parasol, hein. Plutôt la doudoune à Reykjavik, Islande-France. Ce soir, vous allez pouvoir le suivre en direct sur Europe 1. Les Bleus qui reprennent les qualifications de l'Euro de foot pour 2020. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes déjà installé dans le stade qu'on sait assez particulier parce qu'ouvert à tous les vents. Quelle est donc la température?
Eh bien, on va pouvoir mettre les parasols.
Ah bah finalement.
Mais incroyable, il fait presque 10 degrés. Ouf. Il n'y a aucun vent. Et oui, Nathalie, le ciel est à peine voilé comme en été. Alors qu'hier, eh bien, c'était l'hiver islandais. On grelottait, le vent balayait le terrain, la neige recouvrait le haut des montagnes. Alors les conditions de jeu ici Je me lance au stade Logardalsfosslour. C'est pas encore trop ça, mais je vais y arriver d'ici 20h. Sont bien plus favorables, même si attention, hein, la météo peut rapidement changer ici à Reykjavik. Alors, quelques données sur ce match. Cette enceinte, eh bien, c'est une forteresse. Les Vikings n'ont perdu que 3 de leurs 22 derniers matchs ici. Motivation décuplée des Islandais à l'idée d'accueillir de nouveau les champions du monde 21 ans après leur dernier passage. Un match durant lequel, tiens, Christophe Dugarry par exemple a marqué. Le stade sera plein ce soir. 9800 places, eh bien, elles se sont vendues en quelques heures. Mais Didier Deschamps n'est pas inquiet. Les Bleus ont gagné au match aller 4-0. Et le sélectionneur pourra compter notamment sur l'expérimenté Steve Mandanda dans les buts, encore Varane comme capitaine ce soir.
Voilà, Cyril de la Morinerie dans le Grand Nord avec les Bleus Islande-France. 20h45, le coup d'envoi. La soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Et lundi, ce sera la Turquie au Stade de France avec peut-être à la clé, on l'espère, une qualification qui pourrait être acquise.
Bon, en tout cas, ce soir, on est déjà au rendez-vous. Première étape. Allez, la colère monte à Rouen après la visite de 3 ministres aujourd'hui même.
Le ministre de l'Agriculture, notamment Didier Guillaume, qui a évoqué la possibilité de lever dès aujourd'hui les restrictions de commercialisation du lait. Sauf que le préfet n'a toujours pas acté cette décision ce soir. En fait, elle ne devrait pas intervenir avant le début de la semaine prochaine. Les producteurs de lait en colère comptent se rassembler. Ils vont déverser du lait ce soir devant la préfecture à l'initiative de la FNSEA et des jeunes agriculteurs.
L'actualité de ce vendredi soir, c'est aussi ces négociations marathon qui démarrent sur le Brexit.
20 jours, il reste 20 jours avant la date du 31 octobre. Et aujourd'hui, après une réunion jugée constructive à Bruxelles, enfin, on a envie de dire, les 27 ont donné leur feu vert pour intensifier les négociations. Isabelle Horry, on vous retrouve sur place, vous êtes notre correspondante. Est-ce que c'est un tournant dans ce feuilleton interminable ?
Ah ça, Sébastien, c'est la question que toute la presse européenne se pose ce soir. Alors, je vais commencer avec ce qu'on sait avec certitude. Ce soir, les négociateurs sont entrés dans le tunnel. Alors, c'est quasiment une expression officielle à Bruxelles. Ça veut dire qu'ils vont plancher tout le week-end à huis clos. Et lundi, Michel Barnier dira au capital où ils en sont. Si tout s'accélère, c'est parce que jeudi, les chefs d'État ont rendez-vous à Bruxelles et c'est leur dernière rencontre planifiée avant le 31 octobre, la date du Brexit. Alors, est-ce que ce tunnel annoncé, c'est pour la galerie ou est-ce qu'il y a un vrai espoir ? Ce qui est clair, c'est que personne à Londres ou sur le continent ne veut être celui qui dira « stop, on ne va nulle part ». Chacun espère que l'autre va le dire d'abord et endosser la responsabilité d'un échec. Donc, il y a une part de théâtre dans ces grands mouvements. Mais plusieurs sources indiquent aussi que les Britanniques seraient prêts à lâcher un peu de l'Est, à laisser l'Irlande du Nord avoir un statut spécial avec un pied dans l'Union européenne. C'est à confirmer. Voilà, c'est un peu facile, Sébastien, mais je vais le dire quand même. On attend de savoir s'il y aura un peu de lumière au bout du tunnel.
Et ça fait longtemps qu'on attend. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, remarquez sur ce dossier. Les djihadistes qui s'échappent, Sébastien, d'une prison au Kurdistan syrien, c'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute.
Et les Kurdes affirment que c'est arrivé à la faveur des raids aériens menés par la Turquie. Les forces démocratiques syriennes évoquent 5 membres du groupe État islamique qui ont fui leur prison. Un autre centre pénitentiaire serait lui aussi frappé par des bombardements. Aujourd'hui, la France a évoqué la possibilité de sanctions européennes contre Ankara, le président turc Erdogan menaçant en retour de laisser affluer des millions de migrants vers l'Europe.
En Grande-Bretagne, maintenant, c'est toujours le flou sur les motivations de cet homme qui a attaqué aujourd'hui des passants à Manchester.
Attaque au couteau dans un centre commercial. Il a blessé 5 personnes et a été arrêté. L'enquête est confiée à la police antiterroriste.
On l'attendait, le prix Nobel de la paix. Finalement, ce ne sera donc pas Greta Thunberg. Hein, les bookmakers se sont trompés.
Oui, clairement. Le comité a choisi l'artisan d'une réconciliation historique en Afrique de l'Est. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, Victor Hollande, il a mis fin à 20 ans de guerre avec le pays voisin, l'Érythrée. Abiy Ahmed qui s'est dit honoré hein, et qui salue un prix donné à l'Afrique en espérant incarner un exemple pour d'autres dirigeants du continent.
Oui, ce jeune dirigeant éthiopien, 43 ans, a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué depuis plus de 2 décennies. 6 mois à peine après son investiture en tant que Premier ministre en juillet 2018, Abiy Ahmed signe un accord de paix avec son voisin érythréen. Il fait relâcher des milliers de dissidents, il s'excuse publiquement pour des violences des forces de sécurité et il accueille à bras ouverts les membres de groupes exilés qualifiés de terroristes par ses prédécesseurs. Né d'un père musulman et d'une mère chrétienne dans un village du centre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed grandit en dormant par terre. dans une maison sans électricité ni eau courante. Après une carrière éclair dans l'armée, il troque l'uniforme pour le costume d'homme politique. En plus du spectaculaire rapprochement avec l'Érythrée, il joue aussi un rôle important de médiation dans la crise soudanaise. Son prochain défi désormais, l'organisation d'élections libres et équitables dans un pays toujours secoué par les conflits communautaires.
Portrait signé Victor Dolande pour Europe 1.
C'est vendredi soir, alors on va terminer en musique. On se fait plaisir. Demain, ce soir, je suis en feu.
Et il est en feu, le chanteur soprano, et on le comprend. Rendez-vous compte, il remplit deux fois le stade Vélodrome ce soir et demain à Marseille. 100 000 spectateurs, comme pour Johnny ou McCartney. Pour lui, l'enfant des quartiers nord qui fait aujourd'hui la fierté de la ville.
C'est le minot de Marseille. Lui, il le dit toujours, Marseille, ça restera chez lui. Quand il vient au Vélodrome, il est chez lui, il est dans son jardin. Sorti des quartiers, il a commencé dans du rap urbain avec Psychiatre de la Rime, avec ses collègues Alonso et toute la clique. Il a fait de la variété, il a su se démarquer. C'est vraiment un artiste exceptionnel.
Et votre fille, c'est une fan absolue.
Elle est à fond du matin au soir et toute la journée, c'est que ça.
Il est sincère dans ce qu'il dit, toutes ses phrases sont vraies. C'est un ange tombé du ciel.
L'amour et la paix. Il réunit tous les peuples de toute origine.
Le minot des cités vous touche?
Complètement. Il n'y a rien de plus beau que ça. Hein. C'était pas facile de se faire accepter quand on venait des quartiers nord à l'époque. Et donc là, maintenant, d'en être là, de remplir un vélodrome deux soirs de suite, je pense qu'il peut être fier. Et nous, en tout cas, on est fiers de lui.
C'est un monstre de la musique française, du rap français. Je pense que le concert va être énorme.
Voilà le minot des quartiers qui remplit le Vélodrome, les spectateurs marseillais avec Nathalie Chevance. Et Anissa est jalouse de ne pas y être.
Bah ouais. Anissa connaît toutes les paroles.
Ah, bien sûr,
c'est vrai que c'est vraiment la consécration pour cet artiste soprano. Merci à vous. Sébastien, vous revenez à 19h30 avec de
plaisir.
Nouvelles infos et de nouvelles musiques peut-être. Qui sait, on verra ça.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Du coup, comme vous chantez faux, Anissa, regardez le temps.
Ah bah bravo.
Voilà,
c'est de ma faute.
C'est le résultat.
Bon, le week-end sera gris, hein, Nathalie, sur une grande partie de la France. Alors d'abord, on va parler des températures, parce que les températures, elles sont assez impressionnantes dans le sud-ouest, surtout où on dépasse les 30 degrés demain après-midi à Mont-de-Marsan, 29 à Auch, 28 à Biarritz et à Bordeaux, 26 à Montluçon et à Toulouse, 25 à Clermont-Ferrand. Bon, plus on monte, plus ça se refroidit, 23 à Saint-Étienne et à Lyon, 21 à Paris, 18 à Cherbourg, Lorient et Lille. Demain, la France, pour être très synthétique, elle sera coupée en trois, avec au sud, au bord de la Méditerranée, dans le golfe du Lion, des entrées maritimes le matin qui vous apportent des nuages demain après-midi, des nuages accompagnés de vents d'autant, beaucoup de pluie aussi dans les Cévennes demain, attention. Au nord, en Normandie et en Bretagne, le ciel est couvert demain avec des averses et du vent. Partout ailleurs, eh bien vous aurez un ciel partagé entre nuages et éclaircies, un ciel très voilé. C'est le long des frontières de l'Est, en fait, hein, de la Côte d'Azur jusqu'à l'Alsace. C'est dans toute cette partie de la France que vous verrez le plus le soleil avec de belles éclaircies, surtout demain matin.
Europe 1. Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec l'interview politique, votre rendez-vous tous les soirs à 19h10, c'est David Doucan aux commandes. Bonsoir David.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité du jour.
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie à Bercy. Beaucoup d'actualités. Thierry Bolloré, directeur général de Renault, débarqué. Ouais. Le Brexit qui approche. La France est-elle prête? Et tout ça avec une commission totalement à l'arrêt. Après, la claque infligée à Emmanuel Macron sur le cas Sylvie Goulard.
L'interview politique de David Doucan, c'est dans votre grand journal du soir dans un instant sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec l'interview politique, Nathalie Lévy.
Et David Doucan, vous recevez ce soir la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir David Doucan.
Alors, le conseil d'administration de Renault a révoqué ce matin Thierry Bolloré, qui était directeur général depuis janvier, avec bien sûr de l'accord de l'État, c'est évident. Pourquoi cette décision, selon vous?
Je crois que le conseil d'administration prend ses décisions. On a complètement reconstitué, enfin Renault a reconstitué du côté de Nissan l'équipe dirigeante. Elle fait évoluer l'équipe dirigeante du côté de Renault. Nous, notre sujet, c'est que cette équipe dirigeante, elle soit focalisée sur les enjeux industriels qui sont devant eux. Ces enjeux industriels, ils sont massifs.
Et on a jamais Bolloré n'en eu... était pas capable, n'était pas l'homme de la situation.
C'est Jean-Dominique Senard, il est le patron de Renault-Nissan. Il constitue son équipe. C'est rien de neuf sous le soleil.
Il s'agissait peut-être
d'une équipe dirigeante.
Est-ce qu'il s'agissait de purger l'époque Ghosn complètement pour faire plaisir peut-être aussi aux alliés japonais?
Moi, je pense que le sujet, c'est que l'équipe fonctionne. Donc, si vous avez un problème dans une équipe et qui n'est pas nécessairement un problème lié aux qualités des personnes, il faut néanmoins en tirer les conclusions. Et donc, aujourd'hui, on a une équipe qui a été constituée par le président. C'est une équipe qui a la confiance du président. On a la voiture autonome, la voiture électrique, des enjeux de convergence en transition écologique qui sont majeurs pour Renault dès l'année prochaine. S'ils ne les tiennent pas, c'est des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc je peux vous dire qu'il y a suffisamment à faire pour que l'équipe soit complètement alignée et soit uniquement obsession sur le plan industriel, l'alliance, comment on avance, comment on résiste.
Alors, en attendant de trouver un successeur à Thierry Bolloré, c'est la directrice financière, Clotilde Delbos, qui a été nommée par intérim directrice générale. Quel est le profil de ce successeur, selon vous ? Quelle est la bonne personne, peut-être une femme ?
Encore une fois, je ne vais pas me substituer à l'équipe dirigeante de Renault. Pannier-Runacher,
on sait qu'aucune décision ne peut être prise concernant Renault sans l'accord de l'État.
Nous avons deux administrateurs, nous jouerons notre rôle, mais nous jouerons notre rôle au titre de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des grands industriels, nous sommes l'État, nous sommes actionnaires, nous prenons nos responsabilités, nous les prenons comme un actionnaire indépendant. C'est-à-dire que nous jugerons du profil, s'il est approprié ou pas. Le profil à la tête d'une entreprise industrielle, je vais vous étonner, il faut que ce soit un industriel qui vienne qui ait beaucoup d'expérience professionnelle et qui soit capable de gérer une transformation. Mmh. Ça fait un profil qui n'est pas si évident à trouver.
Est-ce que une femme, c'est un critère ou pas du tout ? On regarde que la compétence.
Mais je peux vous assurer que dans n'importe quel poste, on est capable de trouver la femme compétente. Donc, ce que je vais vous répondre, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec la loi Pacte, sur chaque poste de mandataire social, il faut trouver le meilleur candidat et la meilleure candidate.
Alors, il y a une femme compétente qui s'est vue refuser un poste hier, c'est Sylvie Goulard. Quelle claque pour Emmanuel Macron. Et puis, alors, votre collègue, ce matin, Amélie de Montchalin, ministre de l'Europe, a déclaré « Les députés européens ont déclenché une crise institutionnelle majeure pour l'Europe. » On avait le sentiment que c'était simplement le fonctionnement démocratique normal du Parlement européen.
En réalité, c'est un peu plus profond que ça. Parce que ce n'est pas seulement Sylvie Goulard qui a été retoquée, c'est trois membres de la Commission européenne. C'est inédit.
La candidate roumaine et le candidat hongrois
ont également été retoqués. Et surtout, ça donne le sentiment que la Commission européenne, qui vient à peine d'être constituée et qui n'est pas encore en place, puisqu'elle sera en place le 1er novembre, serait faible. Or, il faut que cette Commission européenne fonctionne, qu'elle porte des projets. Là aussi, l'importance du projet européen est telle qu'on ne peut pas se permettre de ne pas fonctionner rapidement et de ne pas prendre des décisions qui soient efficaces. Et donc, je pense qu'elle a raison de dire que c'est une crise, qu'elle est profonde, et qu'il nous appartient de trouver les voies et moyens de la résoudre. Mais en tout état de cause, on doit fonctionner en bonne intelligence avec le Parlement, et on doit être capable d'avancer, on doit être capable de porter des projets de convergence, de mécanismes d'inclusion carbone aux frontières, par exemple, pour prendre ce sujet-là. D'une politique industrielle ambitieuse, pour prendre les sujets qui m'intéressent, ça, vous devez le faire en ayant un vrai travail avec le Parlement, mais un travail où vous trouvez des points de convergence et des décisions. Or là, on a manifestement un désaccord, et ce n'est pas un désaccord qu'on a vu de mémoire depuis le début de la construction européenne.
Oui, mais peut-être que le président de la République a pris un risque inutile.
Je rappelle que c'est la présidente de la Commission européenne qui présente ses commissaires. Je ne suis pas sûre qu'il ait pris un risque particulier, ni sur le Hongrois, ni sur la Roumaine. Donc je crois qu'il faut relever un peu le nez de la copie et regarder la situation européenne. On a tendance à analyser cette situation au travers du prisme de la politique française. Il faut savoir que là, c'est un jeu à 28 pays.
Jouons à 28. Parlons-en de l'Europe avec le Brexit. Les négociateurs à Bruxelles sont entrés dans le tunnel, c'est leur expression. Ça veut dire que les négociations maintenant reprennent et de manière intensive. Est-ce que vous pensez, Agnès Pannier-Runacher, qu'on peut encore aujourd'hui éviter la perspective d'un Brexit sans accord, le hard Brexit ?
Le fait qu'ils rentrent dans le tunnel est une indication très positive parce que ça veut dire qu'il y a de la matière et du grain à moudre dans la négociation. Donc s'il y a du grain à moudre dans la négociation, un accord est possible. Il y a eu suffisamment de rebondissements ces derniers temps pour que j'évite de vous donner une probabilité sur la capacité à obtenir cet accord. Mais le point positif, c'est que les lignes ont bougé et que l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni et l'Irlande, ont convenu qu'il y avait peut-être une capacité à trouver un accord, des lignes qui pouvaient fonctionner.
Je rappelle bien sûr que cette frontière irlandaise, c'est ce qui coince depuis que l'accord présenté par, à l'époque, Theresa May avait été rejeté. Alors, parlons de ce que vous faites, parce que vous dites qu'il peut ne pas y avoir un Brexit dur, mais on se prépare au pire.
Il faut se préparer, à un no deal, c'est-à-dire à se retrouver dans une situation le 1er novembre, le Royaume-Uni devient un pays comme les autres, qui n'a pas d'accord commercial avec l'Europe.
Et donc les règles de l'OMC s'appliquent.
Et donc les règles de l'OMC
s'appliquent.
Augmentation des tarifs douaniers. Sauf si le Royaume-Uni donne un catalogue de tarifs, et c'est ce qu'ils avaient promis de faire. Hein. Mm-hmm. Je rappelle que Theresa May avait indiqué qu'il n'y aurait pas de tarifs sur 80% des marchandises. Donc il faut avoir
ce détail.
Pour les
entreprises françaises, parce que les patrons, notamment des petites PME, sont très inquiets. Il dit, je vais avoir plus de paperasse, je vais avoir des taxes qui vont augmenter. J'exporte, moi, mes produits vers le Royaume-Uni, par exemple. C'est 30 000 entreprises en France qui exportent une grande partie de leur production vers le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, ce qu'on leur dit, c'est qu'on les contacte d'abord. On les a contactés sur la base du fichier des douanes, justement, celles qui exportaient vers le Royaume-Uni. Et on fait le point avec elles. Je le redis à cette antenne, hein, puisque c'est toujours utile. Nous avons un site, brexit.gouv.fr. Sur ce site, nous avons mis en ligne un outil diagnostic où vous répondez à une série de questions et ça vous donne la marche à suivre par rapport à des démarches possibles sur le sujet du Brexit. C'est-à-dire, est-ce que je dois me préoccuper de dédouaner des marchandises ? Est-ce que je dois me préoccuper de certains de mes salariés pour lesquels il faut que je fasse des déclarations spécifiques ? Tous ces sujets-là.
Donc
je recommande
d'y
aller.
En 20 secondes, Agnès Pannier-Runacher, parce qu'on manque de temps, est-ce qu'il va y avoir des files d'attente interminables 1er novembre à Calais, à l'approche des ports, vers le Royaume-Uni ?
Eh ben, moi, j'en appelle à toutes les entreprises. Si les entreprises s'inscrivent et font la dématérialisation de leurs marchandises douanières, non, il n'y a pas de file d'attente. Si elles ne le font pas, malheureusement, on ne peut pas le faire à leur place. Donc, c'est très important qu'elles prennent ce sujet très au sérieux et qu'elles se préoccupent effectivement de faire ces démarches, elles sont rapides, elles sont efficaces.
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec vous Nathalie Lévy.
À 19h30, changement radical d'univers. On se souvient d'Orange Mécanique, il y a Joker qui vient de sortir sur grand écran. La violence gratuite au cinéma donnée en pâture à nos adolescents. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous attends au 39-21. Et puis à 19h45, on va parler, parce que c'est pratiquement le week-end, on va parler gastronomie, bande dessinée et tendance un petit peu de détente.
Oui, ça fait du bien. C'est le week-end, effectivement. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe. Votre grand journal du soir sur Europe, hein, Nathalie Lévy.
Et tous les soirs, on vous emmène en région et puis un peu plus loin dans le monde. Direction ce soir à la Gironde avec Stéphane Place. Ce sera l'actualité chez vous demain. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Nathalie.
Un livre de poche. Vous avez même la possibilité de vous rendre au salon de livres de poche, oui, qui se tient à Gradignan jusqu'à dimanche. C'est dans l'agglomération bordelaise, un événement qui attire jusqu'à 20 000 visiteurs et des figures de la littérature aussi.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, un livre sur quatre vendus est en poche. Alors, ce format mérite bien son salon où, cette année, des poids lourds de la littérature sont encore présents. Il y a d'abord le parrain de ce grand rendez-vous culturel, l'écrivain, médecin et académicien Jean-Christophe Ruffin. Ce week-end à Gradignan, il ne faudra pas manquer la lecture théâtralisée de l'un de ses livres, L'Abyssin. Ruffin est là et tous les autres, Benacquista, David Diop, Sylvain Tesson, Alice Zeniter, Tim Willox, pour ne citer que ceux-là, rencontrent, dédicaces, conférences, le patron de Lire en poche, Lionel Destremau.
C'était un peu une gageure à l'origine, il y a 15 ans. C'était pas du tout entré dans les mœurs, et notamment chez les auteurs, de signer des livres de poche, de présenter ces livres de poche, de vendre ces livres de poche au public. On était encore il y a 15 ans dans cette idée que l'édition Princept, donc le grand format, avait, on va dire, la primeur sur l'édition poche, qui était encore un peu considérée comme une édition un peu populaire et un peu de seconde zone. Ça s'est beaucoup développé au fil des années. Le livre de poche est devenu un objet d'une qualité de fabrication, de présentation. Aujourd'hui, on s'offre un livre de poche. Il y a quelques années, c'était très peu envisageable. Et l'édition a travaillé énormément là-dessus avec des collectors, des éditions particulières au moment de Noël, des promotions spécifiques pour mettre en avant ses livres, etc. Ça, d'une part. Et d'autre part, une évolution du public. C'est devenu le bouquin dont on constitue sa bibliothèque personnelle. C'est un livre plus accessible en termes de prix. mais aussi parce qu'on trouve en poche à peu près tous les genres possibles imaginables.
Oui, c'est vrai. Et ce week-end, Lire en poche organise des petits déjeuners littéraires. Moment privilégié pour échanger avec Jean-Christophe Ruffin. Moi, je suis très fan. Oui. Laurent Godet ou encore Michel Bussy, par exemple, avec un croissant, un café et une chocolatine.
Voilà, ne vous en privez pas. Exactement, c'est la chocolatine dans cette région.
Eh bah oui, on est
le sud-ouest. Attendez, je connais. Hein. Dites donc, Stéphane Place. Vous n'allez pas me piéger. Merci beaucoup, on vous embrasse.
À bientôt.
Allez, bon salon.
19h26, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'actualité dans le monde, demain, c'est tous les soirs. Non pas demain, mais lundi, pour être exact, ça se passera en Espagne. Bonsoir Henri de Laguérie.
Bonsoir.
C'est en effet dans quelques jours que sera prononcé le verdict du procès des dirigeants indépendantistes catalans. On est deux ans après le référendum illégal et la tentative de sécession. C'est donc lundi un verdict très attendu, hein.
Ben oui, effectivement, toute l'Espagne retient son souffle. Ce procès du siècle, comme on l'a qualifié ici, retransmis en direct à la télé, a été très suivi. Et le verdict aura forcément des conséquences, car tout le débat public se structure autour de cette question catalane à un mois des élections générales. Les 12 accusés, dont 9 sont en détention provisoire depuis près de 2 ans, risquent de lourdes peines. Selon la presse, la Cour suprême devrait les condamner pour sédition, ce qui implique des peines comprises entre 4 et 12 ans de prison. C'est beaucoup, mais c'est moins que ce que réclamait le parquet, qui les accusait de rébellion et demandait notamment pour Oriol Junqueras, ancien numéro 2 de Puigdemont, 25 ans sous les barreaux. Le camp indépendantiste va en tout cas se mobiliser. Des manifestations auront lieu lundi dès l'annonce du verdict. On évoque aussi une grève, des blocages de routes, des occupations de voies ferrées. Le président catalan appelle même à la désobéissance civile. Écoutez Elisenda Paluzzi, leader séparatiste.
Cette condamnation, ce sera un élément de plus qui, pour nous, justifie l'indépendance. On ne peut pas continuer à vivre dans un État qui condamne des gens pour avoir organisé un référendum d'autodétermination. Je pense qu'on peut parler de climat de répression politique, évidemment.
Henri, est-ce qu'on peut craindre des débordements, des tensions comme il y a 2 ans ?
Alors écoutez Nathalie, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Madrid a envoyé 2000 policiers supplémentaires en Catalogne. Un mystérieux groupe appelé Tsunami Démocratique a placardé des affiches dans les rues de Barcelone en demandant aux Catalans de préparer des provisions et d'être attentifs aux réseaux sociaux. On verra, hein. Difficile de faire un pronostic. En tout cas, tous les Catalans n'iront pas manifester, loin de là. La moitié d'entre eux ne sont pas indépendantistes. Écoutez Xavi, militant plutôt socialiste.
Il faudra respecter le verdict, il n'y a pas le choix. Ils pourront protester, mais ils ne devront pas encourager les gens à réagir de façon violente comme ils commencent déjà à le faire.
Voilà, et en cas de condamnation, les avocats des prévenus ont annoncé qu'ils porteraient l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.
Rendez-vous pris donc lundi pour le verdict. Merci Henri de Laguérie, correspondant Europe 1 en Espagne.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir.
Le rappel des titres et puis on va parler de la violence au cinéma parce qu'il y a ce film Joker, évidemment déjà en salle.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, Sébastien Krebs.
La colère des producteurs laitiers à Rouen, ils annoncent un rassemblement ce soir et comptent déverser du lait devant la préfecture. Les restrictions de commercialisation ne devraient finalement pas être levées avant le début de la semaine prochaine. Dans l'actualité aussi ce soir, le directeur général de Renault Thierry Bolloré débarqué. Il était le dauphin de Carlos Ghosn, remplacé immédiatement par la directrice financière Clotilde Delbos. L'inquiétude sur la situation dans le nord de la Syrie, l'offensive turque qui se poursuit a déjà fait 100 000 déplacés, estime l'ONU. Les motivations de l'assaillant de Manchester toujours très floues. L'homme est interrogé par la police antiterroriste. Ce matin, il a attaqué des passants et en a blessé 5 à l'arme blanche dans un centre commercial. Le prix Nobel de la paix attribué au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation historique avec l'Érythrée. Et puis les Bleus en Islande ce soir. Match comptant pour les qualifications de l'Euro 2020 Islande-France. Coup d'envoi 20h45 à suivre en direct sur Europe 1 en intégralité. Soirée spéciale dès 20h.
Le rendez-vous est pris et avec vous Sébastien pour lundi en revanche. Ce sera à 18h évidemment. Anissa, ça s'annonce comment ? Mi-figue, mi-raisin je dirais ? Pire encore ? Non, arrêtez-vous
c'est,
là.
C'est pas moite-moite. C'est plutôt un tiers, deux tiers. Ouais, c'est pas terrible. Quoi. Alors en fait, je vous explique la situation. La France, elle est coupée en trois demain. Sur la partie nord-ouest de la France, en Normandie et en Bretagne, là, c'est très nuageux dès le lever du jour avec des pluies assez soutenues. Sur le sud, là aussi, beaucoup de nuages, notamment du côté du golfe du Lion avec des entrées maritimes demain matin qui vont vous emmener de la pluie, des averses parfois
assez importante et notamment sur les Cévennes. Attention, hein, sur les Cévennes, pluie soutenue. Et en fait, la seule partie où le soleil sera là demain, c'est de l'Alsace à la Côte d'Azur, tout le long de la frontière de l'Est. Les températures, 8 à 15 du nord au sud le matin, 30 degrés, il fait chaud par contre hein, dans le sud, 30 degrés dans le sud-ouest, 21 à Paris, 23 à Marseille, 18 à Lille.
Europe 1.
Votre grande journal du soir, Nathalie Lévy, et on parle de violence au cinéma ce soir avec vos invités, la pédopsychiatre Marie-Josée Moreau et le psychiatre Olivier Duris.
Bonsoir à vous Marie-Rosée Moreau, merci.
Marie-Rose,
pardonnez-moi, Rosée c'était joli aussi, mais Marie-Rose Moreau, bonsoir à vous, bienvenue. Vous êtes en effet professeur également en psychiatrie à l'Université Paris-Descartes, vous dirigez la maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Olivier Duris, on sera en ligne avec lui dans une petite minute. Ce film, Joker, est-ce que vous l'avez vu d'abord? Il est sorti mercredi.
Non, j'en ai entendu parler par les adolescents et les jeunes adultes.
Et que vous en disent-ils?
Écoutez, ils disent souvent des choses extrêmement intéressantes sur la genèse de la violence et sur les effets de la violence. Mais en tout cas, ils ne sont pas dupes des différents niveaux et aussi de la... Comment se fabrique la violence. Et aussi, peut-être, ils sont très sensibles, je trouve, en tout cas, dans la manière dont ils m'en ont parlé, au fait que lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on n'est pas reconnu, lorsqu'on n'est pas aimé, on peut faire n'importe quoi et devenir violent, une sorte de violence absolue.
Mais c'est vraiment ce sur quoi s'appuie le film, hein. Comment une société peut broyer un homme, engendrer un monstre. Et puis, il faut expliquer aussi que la polémique vient parce qu'on est dans ce film-là sur l'accident d'Aurora en 2012. Aurora, ville des États-Unis, qui avait été le théâtre d'une tuerie de masse dans une salle de cinéma. Hein. Un film, ensuite, le film de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. On est en ligne avec le psychologue Olivier Duris. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission avec le psychiatre Serge Tisseron d'une recherche sur les effets des images chez les enfants et les adolescents par le ministère de la Culture, entre autres. Doit-on craindre des actes violents à chaque sortie de film sur un personnage dangereux, selon vous?
Alors en fait, c'est une peur qui est assez courante hein, finalement et qui existe depuis même longtemps. On voit que dans les années 50, par exemple, il y avait une inquiétude par rapport à la bande dessinée qui pouvait être responsable en tout cas de la violence juvénile. Mmh. On a vu ça, hein, c'était un livre qui s'appelait La séduction des innocents, qui avait fait beaucoup de bruit à cette époque et qui avait même conduit à une sorte de campagne de censure aux États-Unis avec presque une obligation d'un happy ending à chaque bande dessinée ou comics ou autre. Et c'est... En tout cas, ce qui se passe en ce moment avec le film Joker, c'est pas la première fois qu'on s'inquiète de la violence d'un film. Mmh. Il y a eu le cas avec Taxi Driver, avec Orange Mécanique. Il y a eu le cas avec plein d'autres films, hein, finalement. Mais comme l'a très bien dit Marie-Rose Moreau, finalement, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir ce qu'en disent les gens qui regardent le film. Et par exemple, pour le film Joker, finalement, la violence qui semble le plus marquée, en tout cas, moi, les jeunes que j'ai pu recevoir et avec qui j'en ai parlé... Mmh. C'est plutôt la violence du système, la violence des autres.
La violence de la société.
Voilà, exactement.
Ouais. On va en reparler avec vous deux dans un petit instant, Marie-Rose Moreau, et puis avec Olivier Duris, et avec vous les auditeurs, parce que vous êtes nombreux à nous appeler. Ce film est sorti mercredi dernier.
Et ça se passe au 39-21. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, on parle violence au cinéma avec la sortie mercredi du film Joker. Vous recevez la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau et le psychiatre Olivier Duris.
Oui, ce film en salle, vous l'avez dit depuis mercredi, qui est déjà vu d'ailleurs comme l'un des candidats les plus sérieux pour les Oscars de 2020. Et pourtant, son propos fait largement polémique. Je voudrais qu'on réponde à Christelle. Bonsoir Christelle, vous nous appelez depuis la région parisienne.
Oui.
Vous avez quel âge Christelle?
45 ans.
Et donc, c'est vos enfants qui vont aller voir ce film ou vous allez y aller ensemble?
En tout cas, c'est mon ado qui m'en a déjà parlé depuis une dizaine de jours. Et vu la teneur du film, je pense qu'il serait plutôt souhaitable qu'on y aille ensemble si on y va. Par principe, je ne suis pas très fan de ce type de film et de cette extrême violence. Après, quand on accompagne l'ado, quand on parle avec eux, qu'on cherche effectivement à comprendre les causes de la violence, on est quand même dans l'univers de Batman et ils sont quand même conscients que c'est de la fiction. Moi, sur les images de violence, je suis beaucoup plus inquiète en fait sur l'accès direct qu'ils peuvent avoir à de la violence sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur lesquels on a aucun, enfin nous en tant que parents, aucun regard, aucune prise. Et c'est vrai que sur ce champ-là, c'est peut-être plus facile d'accompagner un film qui est de l'ordre de la fiction que d'accompagner l'accès direct à la violence quand ils ouvrent la télévision ou
sur Internet en libre accès, sur Internet parce qu'on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas avec quel rythme ils y vont. Merci beaucoup Christelle. Elle a raison Christelle, docteur Marie-Rose Moreau, parce que évidemment il y a cette violence à laquelle ils ont accès sans difficulté sur Internet, les images. Mais il y a la psychologie aussi. Là dans ce film-là, c'est toute cette violence, mais dans la psychologie aussi. Qui fait polémique, entre guillemets. Il faut y aller avec son enfant ? Il faut y aller avec son ado ? Il faut en parler avec son ado ?
Alors,
quand on est parent ?
Oui, je crois que Christelle a raison. En tous les cas, les ados, ils savent bien que c'est de la fiction et ils savent aussi comment ça s'inscrit dans Batman, dans l'histoire, dans toute une construction qui est clairement imaginaire et créative. Enfin, oui. Et donc, ça à mon sens, ça pose pas de problème. Alors après, faut-il y aller avec son ado ? Oui, quand chaque fois que c'est possible et quand ils sont petits, hein, parce que
là, c'est
pas
le cas, puisque le film de toute façon est interdit. Hein,
12 ans.
Donc, de toute façon, 12 ans, c'est pas si grand.
12 ans, c'est pas si grand, voilà. Ouais. Mais bien sûr, je sais pas, à partir de 15 ans, les ados, ils vont voir ces films-là la plupart du temps avec d'autres ados ou des jeunes adultes, et ils savent faire la part des choses. C'est vrai que la violence de la réalité, la violence crue, la violence aussi gratuite, la violence non décodée, mais qui concerne la réalité, qui n'est pas une fiction, n'est pas une histoire, n'est pas une imagination, peut faire plus de mal plus d'effet.
Olivier Duris, on est toujours en ligne avec vous. En effet, la violence psychologique, il y a une différence entre la violence psychologique, visuelle, réelle. Ça n'a pas le même impact aussi sur le cerveau, j'allais dire, d'un ado.
Bah, déjà, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Marie-Rose Moreau. C'est totalement vrai. En fait, ce qui est bien important à comprendre, c'est tout va dépendre aussi de l'âge du jeune. Par exemple, avec les enfants, il faut beaucoup plus accompagner, regarder avec pour voir, commenter. Et par contre, avec les ados, en fonction de l'âge, en effet, des fois, le laisser un peu seul, y aller avec les copains, ça peut se faire. Mais quand même, c'est important de pouvoir reprendre avec lui, même si on ne l'a pas vu ensemble, et pouvoir lui dire bah, « Tiens, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que ça a joué sur toi ?» et tout ça. La violence, en effet, elle est partout, finalement. Elle est même, des fois, dans certaines des émissions qui sont le plus regardées à la télévision, avec une violence, des fois, qui peut être de l'ordre du harcèlement et qui, en plus, est validée par les autres parce que ça fait rire. Il y a aussi une très forte violence, des fois, dans les journaux télévisés, par exemple, à 20h, où on peut avoir des images très choquantes et qui, en plus, là, sont vraiment de l'ordre de la réalité et non de la fiction, et donc qui peut angoisser les enfants. Et il ne faut pas oublier non plus une chose par rapport à Joker, quand même, c'est que si vous allez regarder sur le site IMDB, donc il y a un site qui peut vous montrer toutes les classifications partout dans le monde, il n'y a qu'en France que le film est interdit au moins de 12 ans.
Ah oui.
Partout ailleurs, généralement, c'est 15 ans.
C'est 15 ans, c'est exactement ce que j'allais vous dire. La classification, voilà. Là, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser à tous les deux, Marie-Rose Moreau, Olivier Duris, c'est que la classification là, des œuvres cinématographiques, 12 ans, ça vous semble, vous n'avez pas vu le film, Marie-Rose Moreau, peut-être Olivier Duris nous dira s'il l'a vu, mais ça, vu ce qu'il en est dit, c'est insuffisant.
Alors, comme je savais que je venais parler de ça, j'en ai parlé avec beaucoup d'ados et de jeunes adultes qui l'ont vu. Alors, je sais que ce n'est pas partout pareil. En tous les cas, tous ceux avec qui j'en ai parlé me disaient, qui n'étaient pas des grands, enfin, qui étaient de tout âge, me disaient que c'était acceptable. Parce que vraiment, je crois que ça s'inscrit dans une histoire. Mais je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut reprendre, qu'il faut en discuter, que c'est quelque chose qui doit faire partie des échanges et des échanges avec les adultes. Mmh. Et peut-être qu'il y en a qui sont trop petits pour aller voir,
Bien évidemment. Olivier Duris, je prolonge ma question. Des conseillers au moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans, dans une société où nos enfants voient tout, sont libres de tout, voir dans les JT, effectivement sur Internet, on est toujours dans une conformité de ces appellations, de ces interdictions.
Bah, il y a forcément des trucs à retravailler, surtout quand on voit que pour beaucoup de films, des fois, il y a des classifications qui ne sont pas du tout pareilles que partout dans le monde. Mais en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pose le plus question, c'est que l'interdiction n'a lieu qu'au cinéma. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller voir le film si on n'a pas l'âge. Par contre, à la télévision ou sur Internet, finalement, c'est très facile soit de mentir sur son âge ou même de même pas avoir à le dire. En fait, c'est là où justement, tout à l'heure, je parlais de l'importance de parler et d'échanger, en fait, finalement. C'est ça le plus important.
Exactement.
C'est vraiment le fait de
compris.
Se
Donc
dire...
il faut débriefer en quelque sorte, si ouais, je comprends exactement. Bien ce que vous nous voilà. dites tous les deux, Marie-Rose Moreau, Olivier Duris, merci beaucoup. Il faut débriefer si vous voulez aller voir ce film. Il faut que les parents soient là pour en dialoguer avant, après, pendant. En tout cas, c'est quand même bienvenu. Merci à tous les deux.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le week-end, là tout de suite, ou presque, sur Europe 1. On va parler dans un instant de gastronomie avec les journées mondiales de l'œuf meurette. Eh oui. On va lire une BD sur le physicien Albert Einstein et on va parler de la tendance du non-faire. Ça, j'aime bien. Bon, alors, restez avec nous.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, c'est vendredi. Nous sommes juste avant le week-end.
Affamés donc, aussi.
Et nous sommes affamés. Et voici donc des idées gourmandes et des idées de lecture pour votre week-end.
Eh oui, Laure d'Autriche et Pierre Herbulot sont à mes côtés ce soir, à nos côtés. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue.
Bonsoir.
Alors Pierre, on va commencer avec vous parce que ce sont les journées mondiales de l'œuf en meurette.
Oui.
Ça vient d'où ?
Alors, ça vient de Bourgogne, c'est même les toutes premières journées mondiales des œufs en meurette. Alors, c'est une spécialité bourguignonne, on vient de le dire. J'ai pas de recettes détaillées à vous donner ce soir parce qu'il y a quasiment autant de recettes.
Non, vous nous en avez même pas
apporté. Mais il y a même pas de dégustation.
Alors, je vais vous expliquer. Scandale. C'est un plat qui se mange chaud et je voulais pas vous l'apporter froid ou réchauffé naturellement. Donc, ce sont des œufs pochés dans une sauce au vin avec une petite garniture. Là, ça varie selon les recettes. Il y a des oignons, des croûtons, des lardons, des champignons. En fait, à l'origine, c'était le plat du pauvre en Bourgogne, inventé par ceux qu'on appelait les tâcherons. Ils travaillaient dans les vignes. Et en fait, à la fin des vendanges, ils récupéraient le mou du raisin dans lequel ils ajoutaient des épices et dans lequel ils pochaient surtout des œufs. Voilà comment sont nés les œufs en meurette. Donc, je vous disais, c'est les premières journées mondiales. Une initiative des propriétaires du château du Clos de Vougeot en Bourgogne, évidemment. En fait, l'idée, c'est de faire rayonner ce terroir, ce plat du terroir, en fait, faire rayonner le patrimoine de la région. Et il y a même, Nathalie, un championnat du monde qui se déroule en ce moment dans ce fameux château.
Alors, on va appeler un chef, si vous voulez bien, le président du jury, qui est d'ailleurs avec nous. Bonsoir, Éric Briffard.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes meilleur ouvrier de France, vous êtes surtout bourguignon et l'œuf en meurette, c'est avant tout votre enfance, hein.
Voilà, Éric Briffard, je suis bourguignon, oui, c'est toute mon enfance. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'Institut Cordon Bleu à Paris et j'ai eu l'honneur d'être invité au Clos Vougeot pour être le président de cette première mondiale de l'œuf meurette. Voilà, et en fin de compte, on a reçu ce matin et cet après-midi, on a pu déguster 13 œufs meurettes de 13 chefs renommés, étoiles Michelin ou pas, et vraiment de grande qualité avec de l'innovation. Et pour les éléments clé, c'était l'œuf, le pain et le vin.
Est-ce que vous avez des conseils, chef, à donner à nos auditeurs qui voudraient se lancer là, ce week-end dans la réalisation d'œufs en meurette à la maison ?
Alors, effectivement, on peut partir sur des œufs pochés, donc des œufs qu'on va pocher dans le vin pendant 3 minutes, et ensuite, on pourrait réduire cette base de vin rouge pour en faire une sauce. Mais la vraie tradition veut qu'en fin de compte, on partait d'un bœuf bourguignon en sauce. Et on mouillait un petit peu plus parce qu'on mangeait le premier jour la viande et avec le reste de sauce, on faisait des œufs en meurette. Ça, c'est la vraie tradition. Les œufs en meurette, c'est vraiment un plat qui, encore aujourd'hui, se fait à travers le monde. Et ça peut être un plat très gourmand avec ses lardons, les petits lardons, les petits oignons, une bonne sauce vineuse au Bourgogne et avec des croûtons de pain légèrement frottés à l'ail. Ça peut être vraiment un plat exceptionnel.
Merci
donc
beaucoup.
Ce soir, il va y avoir plus de 230 couverts et on attend le nom du lauréat pour ce premier concours.
Voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Éric Briffard. Merci d'avoir répondu ce soir sur Europe 1. Ils sont 13, hein, 13 grands chefs et ils sont notés par un jury d'experts. Donc, on saura le résultat, vous nous direz.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Pierre. Laure d'Autriche. On va lire aussi, on a un petit peu de temps le week-end. Mm-hmm. Une BD, Les guerres d'Albert Einstein, aux éditions Robinson, c'est ça ?
Oui, absolument. Et je voulais vous parler de cette bande dessinée parce qu'elle aborde une facette méconnue d'Albert Einstein, du scientifique. Et notamment, sa participation d'une certaine façon à l'invention, la création notamment de la bombe atomique. Alors, c'est le journaliste et écrivain François de Closet qui signe cette bande dessinée, accompagné de Corbeyran et de Chabert pour les dessins. Alors, il raconte comment Einstein, pacifiste convaincu pendant la Première Guerre mondiale, voit un de ses amis proches, un chimiste, Fritz Haber, inventer les gaz asphyxiants pendant la Première Guerre. Einstein est horrifié de voir cela. Mais au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il va solliciter lui-même l'État américain où il s'est réfugié et il écrit au président Roosevelt pour l'inciter à mettre au point une bombe nucléaire. Alors, cette lettre va faire basculer l'histoire parce qu'Einstein demande à Roosevelt d'utiliser finalement sa science. Lui, le père de la théorie de la relativité générale, le prix Nobel de physique, le scientifique le plus célèbre au monde. Imaginez, dans cette lettre, il écrit notamment « Il est possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium. Des bombes d'un genre nouveau et d'une extrême puissance pourraient être construites. » Ça fait quand même assez froid dans le dos, ça, aujourd'hui. Et Einstein, effectivement, semble inquiet que l'Allemagne nazie soit sur le point de se doter d'une telle arme. Donc, Roosevelt, en 1942, va donner son accord pour que la production d'une bombe atomique puisse se faire. Alors, Einstein n'a jamais participé aux travaux, mais en 1945, voyant le drame qui se joue, il va tenter de faire marche arrière en écrivant une nouvelle lettre à Roosevelt. Mais ce sera trop tard et on saura juste que, quelques mois avant de mourir, en 1955, Einstein va signer un manifeste pour la paix. Encore un mot pour finir, pour vous dire que tout est vrai dans cette bande dessinée, ce n'est pas romancé. Hein. Le premier tome donc paraît ces jours-ci, il va jusqu'à l'année 1921, le second paraîtra dans l'année, sur toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle donc Les guerres d'Albert Einstein. Avec François de Closet qui signe cette bande dessinée, accompagné de Corbeyran et de Chabert pour les dessins aux éditions Robinson.
Voilà, donc un week-end où on se détend, mais où on s'instruit aussi avec cette bande dessinée, grâce à vous, Laure d'Autriche. Anissa,
oui.
Adadi, tous les vendredis, vous scrutez les tendances. Et la tendance de cette semaine, quelle est-elle ?
Écoutez, j'adore m'ennuyer. J'aime le temps perdu.
Voilà. Et ben, je vous propose qu'on s'ennuie tous ensemble dans les prochains jours, grâce à cette nouvelle tendance qui fait fureur. C'est le Nixen, c'est une tendance qui nous vient des Pays-Bas. Comme souvent en Europe du Nord, ils lancent des tendances. Au Danemark, vous vous souvenez de Hygge ? C'est la tendance cocooning. Oui. Il y a le lagom en Suède, qui est l'art de faire des choses avec modération. Et bien maintenant, place au Nixen. Alors la traduction littérale de Nixen signifie « ne rien faire ». Être oisif ou alors faire des choses sans intérêt.
Mais j'adore ce qu'ils font là-bas. Alors, allons-y. Comment ça, à quoi ça consiste précisément?
Je voulais que je vous donne des exemples de choses
où
on ne
fait
rien.
Bah,
vous regardez les gens passer, vous asseyez à la terrasse d'un café, vous regardez les gens passer, vous regardez le ciel. Ouais. Vous vous posez quelque part sans rien faire. Vous passez du temps avec des animaux, c'est recommandé ça. Alors, on pourrait appeler ça le lâcher-prise, en fait, mais en fait, le Nixen, eh bien. C'est le principe de se détacher des tâches du quotidien qui nous empoisonnent un peu la vie. Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure dans votre journée. Il faut surtout s'éloigner des écrans. On se met au calme et sans culpabilité. Parce qu'en France, quand on fait ça, on passe pour des paresseux. Là-bas, c'est recommandé.
Il faut assumer, exactement. Les bienfaits de cette tendance, ils sont nombreux, j'en suis sûre.
Ils sont très nombreux. En fait, selon Eve Ekman, qui est directrice de la formation au Good Science Center de Berkeley, aux États-Unis, eh bien, les avantages du Nixen, écoutez bien, sont nombreux. La réduction de l'anxiété, la réduction du processus de vieillissement et le renforcement des défenses immunitaires, c'est un bénéfice qui pourrait nous aider à lutter contre un petit rhume, par exemple, en cette période de l'année. Donc, ne faites rien et surtout, gardez bien ça en tête. Bah, écoutez,
Nathalie. Je garde.
Tu sais que le mot travail, ça vient du latin tripalium, qui veut dire torturé.
Ah, bah retenez ça. Ça veut dire torturé.
Non, mais moi, je vote pour Nixen 5 jours sur 7.
Je vote aussi.
C'est un quart d'heure par jour.
Non, 5 jours sur 7. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On a normalement Lionel Rosson en ligne.
Absolument. Ah. Je suis même en direct du studio Coluche. Absolument.
Vous n'allez pas chômer, hein, ça c'est sûr, ce soir. Parce que gros match pour la France face à l'Islande.
Les éliminatoires de l'Euro, en effet, il ne faut pas perdre. Il faut même gagner. Si la France gagne ce soir et lundi contre la Turquie, ce sera aussi à suivre sur Europe 1, bien la France sera qualifiée pour l'Euro. On va se régaler ce soir.
Ouais, il faut faire coup double, absolument. Merci beaucoup Lionel Rosson, on est fidèles, on vous écoute et on les soutient, nos bleus. Très belle soirée à tous, très bon week-end. On se retrouve lundi, ici, 18h. Merci à tous.
À lundi, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.